Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
18h tout pile, bonsoir à tous, bienvenue dans Roten sans flamme. Oui, un Roten sans flamme exceptionnel, pourquoi? Parce qu'on est en mode Coupe d'Europe, encore une fois, la Ligue des Champions, hop, de côté. On parle de Conférence League, on parle d'Europa League, on parle d'Olympique de Marseille, on parle de Lille. On va se régaler pendant 2 heures vraiment. On va lancer déjà le match de Lille qui sera en fil rouge dans l'émission, bien sûr. Et puis, on va surtout lancer l'avant-match de l'Olympique de Marseille avec une équipe XXL. XXL pourquoi ? Parce qu'il y a 2 légendes de l'Olympique de Marseille. Ce n'est pas une légende, mais c'est une légende de l'OM, non, mais une légende des RMC, oui. C'est Jean-Louis Tour. Salut Jean-Louis.
Merci Jérôme, tu peux accueillir les légendes.
Ça va Jean-Louis ?
Avec plaisir, ça va très bien.
On est avec Eric Dimeco. Salut Eric.
Salut Jérôme, salut Jean-Louis.
Salut Eric.
Salut mon passe quoi.
Bon, Pascal Olmeta avec nous. Salut Pascal.
Wow, adieu bon, les amis.
Ça y est.
Bonjour à tous, yo.
Après
Meco, comment il va le Meco, Jean-Louis,
salut
Jérôme.
Pascal.
Les gars, après Paris, ça serait beau que Marseille se qualifie quand même. Vous n'êtes pas d'accord?
Et comment
Paris, bah moi je m'en fous carrément.
Mais après Paris,
Marseille,
je te dis.
Marseille, oui. Mais ce qui m'ennuie un peu, Jérôme, c'est
oui.
Quand tout le monde va y être, les enfants, les ci, les là, tout Marseille, toute ouais. La France.
Et qu'est-ce
le président, il n'est pas là. Et le président de la Ligue, il ne peut pas y aller.
Ah, Franck Macourt n'est pas là. Vincent Labrune n'est pas là non plus.
Ah, mais Vincent,
c'est bizarre. Pour
Vincent
lui,
Labrune,
je
il était à Barcelone.
Il est là quand, il est là quand c'est Paris, mais pas quand c'est Marseille. Je ne sais pas.
Il ne peut pas inspirer toutes les roues qui passent.
Attends, il y a.
Mais bon, je voulais le dire.
Bon, oui, mais bon.
Alors, pour lancer OM Benfica, 2 légendes de l'OM.
Il doit être à fond derrière l'OM, c'est l'essentiel.
Ancien président de l'OM.
Bah oui, c'est pour ça. Donc.
Après, tu dis 2 légendes de l'OM, c'est pas non plus le même poids dans l'histoire de l'OM, les deux.
Bah, les
Pascal
deux,
et Eric.
Les deux ont gagné avec des champions.
C'est exactement le même poids.
Non.
Les deux ont gagné avec des champions, même si Eric, en privé, il aime pas que je dise ça, parce que lui, pour lui, il y en a qu'une ici, c'est Eric.
Vraie légende, bien
sûr. Mais moi, je mets pas de côté Pascal comme ça.
Non, je mets pas de côté.
Pascal a quand même.
On respecte l'histoire du
veux vraiment garder ta maison en Corse, Jean-Louis ?
C'est moi qui ai gardé ta maison, Pascal. Je peux te dire qu'il y a des gens qui tournent autour. Tu dois te méfier. Bon, ce soir, donc, Roten sans flamme autour des français en Coupe d'Europe. 2 vont jouer leur place en demi-finale. Lille, 18h45, le coup d'envoi contre Aston Villa en Conference League. On sera sur place et Marseille face à Benfica à 21h. Aubameyang peut-il qualifier l'OM à lui tout seul? Appelez-nous au 32-16. Ce sera le débat dans Roten se chauffe à 19h. À 18h30, donc l'autre événement en plus d'une place en demi-finale de Coupe d'Europe de Lille à Aston Villa. C'est le retour sur un terrain français pour Emiliano Martinez, le gardien détesté de l'Argentine depuis la finale de la Coupe du Monde. A priori, il devrait être chahuté. Ceux qui lui en veulent encore seront les accusés du soir, accusés d'être ridicules. Ce sera à 18h30. Et puis le casar enchaîné vous proposera la causerie d'avant-match à Marseille. Soyez là, 18h45 donc pour Julien Casar. Mais tout de suite, l'OM s'apprête peut-être à vivre une grande soirée.
Magie divine, le monde du surnaturel.
Des miracles, ça arrive pas très souvent.
Cet homme s'appelle...
Salut, c'est Jérôme Roten.
Les récits vantant ses pouvoirs magiques ont fait le tour de l'Europe.
Moi, je crois pas une seule seconde à ce qu'il puisse rivaliser. Je pense que Marseille, ça va être très très compliqué de se transcender ce soir.
On dit qu'il était capable de voir l'avenir.
Imagine juste, cette équipe, ce groupe-là fait une demi-finale de Coupe d'Europe. C'est plus qu'un miracle.
Il aurait prédit, entre autres, l'assassinat de Kennedy et la Révolution française.
L'OM a encore montré hier tellement de limites techniques, tellement de déchets. Je suis très sceptique.
En nous révélant de quoi demain sera fait, les prophètes et les devins nous sauvent de l'incertitude.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il est surveillé comme l'huile sur le feu.
On verra si tu as vu l'avenir. En tout cas,
T'es pessimiste. Bien, c'est une ex de Jean-Michel Larquet. Hein.
Sûrement.
Savez,
tu es donc pessimiste pour ce soir. L'OM joue une place en demi-finale d'Europa League après la défaite 2-1 à Benfica. Il y a donc un but à remonter. T'as un doute donc sur la capacité des Marseillais à renverser le match. T'as déjà donné quelques arguments, mais tu vas pouvoir les répéter. Êtes-vous d'accord avec Jérôme ou au contraire, l'OM peut-il le faire ce soir? Appelez-nous au 32-16 pour débattre. Mais d'abord, direction le Vélodrome. Florent Germain nous rejoint. Peut-être que Jérôme est un
coup. Salut les amis.
Salut Flo.
Ça va les gars?
Alors
Flo,
quels sont les motifs d'espoir pour y croire, Flo, à Marseille?
Il y en a quelques-uns, mais je dirais que ce sont surtout les 30 dernières minutes à Lisbonne qui ont un peu reboosté les Marseillais, parce que bon, on vous fait pas de dessin, l'OM était quand même malmené 2-0. Il y a eu ce but d'Aubameyang et globalement 30 bonnes minutes. Et ce qui a pas mal marqué les joueurs aussi, et j'étais au stade, c'est la bronca quand même de l'Estadio d'Alus au match aller, les doutes des supporters et donc le sentiment que cette équipe du Benfica aussi n'est pas au mieux. Et c'est vrai que les joueurs marseillais sont repartis du coup persuadés qu'il y avait un coup à faire au match retour. L'autre argument, c'est évidemment, puisqu'on parle des supporters, ce vélodrome. Jean-Louis Gasset insiste énormément là-dessus, hein, sur la chance qu'a l'équipe d'évoluer malgré cette saison un peu galère dans une telle ferveur. Stade encore plein, 64 000 supporters. Wow. Le fait que avec Jean-Louis Gasset, les matchs références, c'est en Coupe d'Europe, hein, OM Shakhtar, OM Villarreal, surtout ce 4-0. Roger Schmidt, le coach du Benfica, a repoussé cet argument en disant qu'il était convaincu que son équipe ne serait pas intimidée. Mais c'est vrai qu'on attend une très très grosse ambiance ce soir. Et puis, si on doit citer un joueur qui est forcément très attendu, c'est évidemment Pierre-Emerick Aubameyang. Je sais que vous en parlerez tout à l'heure à 19h, Jean-Louis, mais c'est le fer de lance. 12 buts en Coupe d'Europe pour lui cette saison, et forcément il a à cœur de faire trembler les filets ce soir et de pousser l'OM vers la qualif.
Merci Flo. Bien sûr, si tu as des infos hein, dans l'avant-match, la compo notamment, tu nous fais signe. Tu es le bienvenu dans Rotten sans flamme. Coup d'envoi 21h de ce match. Alors Jérôme, est-ce que tu es toujours aussi pessimiste pour la qualif de l'OM ce soir?
Oui, je suis pessimiste. Après, je demande qu'à être surpris, agréablement surpris. Encore une fois, moi, je veux bien qu'il y ait des motifs d'espoir, et tant mieux. Heureusement que les Marseillais, que les joueurs, le staff, même les supporters ont des motifs d'espoir ce soir. Sinon, ça sert à rien d'aller au match et ça sert à rien de le jouer. À l'arrivée, il y a qu'un but à remonter, déjà pour arracher la prolongation. Et puis, tu peux te qualifier aussi au pénalty, c'est tout à fait possible. Mais ce que je veux te dire, c'est que j'ai du mal à y croire. Parce que à chaque fois qu'il y a eu une énorme pression sur l'Olympique de Marseille au stade Vélodrome, ça s'est très souvent mal passé. Et donc moi, pour gérer cette pression-là à Marseille, pour prendre le dessus, pour rivaliser avec un adversaire de qualité, parce que je veux bien que collectivement Benfica a des lacunes, ils l'ont montré tout au long de l'année, ils l'ont même montré, et Flo a raison, sur une partie du match aller, mais n'empêche qu'ils ont des joueurs qui ont beaucoup d'expérience. Il y en a beaucoup, il y en a déjà deux qui sont champions du monde. Il y a beaucoup de joueurs qui ont déjà œuvré en Coupe d'Europe et ont eu des matchs références, contrairement à l'Olympique de Marseille, parce que si tu retires Aubameyang, franchement le reste c'est très très limité en Coupe d'Europe, et que là on parle d'un quart de finale pour une place en demi-finale, donc il faut aussi avoir de l'expérience. Et je pense que l'OM, c'est pas je pense, c'est que je le sais, je le vois, l'OM manque cruellement d'expérience et beaucoup de qualité, voilà. Et donc pour emmener ce formidable public, cette ferveur là, il faut aussi que les joueurs donnent envie au public de les soutenir. Et bah j'ai peur que on soit encore déçu. Dire je franchement, quand Ndiaye est annoncé aujourd'hui, Harit est annoncé, Veretout est annoncé, Unai est annoncé pour créer du jeu. Bah excuse-moi que ces joueurs-là m'ont jamais fait grimper au rideau, quoi. Donc je suis sceptique par rapport à ça. Contrairement, encore une fois, je te le dis, à l'adversaire, parce que à l'adversaire, quand tu vois Di Maria, Rafa Silva, tu vois Neres, rien que ces trois joueurs-là, j'ai bien peur qu'ils fassent mal à l'Olympique de Marseille.
Eric, de toute façon, côté compo, Gasset n'a pas le choix.
En plus, il fait avec les hommes
qu'il a.
Exactement.
Et limite même, il est embarrassé parce que il pense à ne pas avoir assez de monde d'expérience.
Ok. Eric, est-ce que tu es d'accord avec Jérôme?
Jérôme nous fait une analyse rationnelle de la saison de l'OM.
Analyse de Parisien.
Parisien.
Non. C'est une analyse rationnelle de la saison de l'OM. Sauf que ce match-là est irrationnel et on l'a vu. Sur la campagne européenne depuis le début de la saison, et notamment sur les matchs à élimination directe, parce que bien sûr Jérôme, toi tu prends tout ce qui n'a pas marché cette année, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de carences dans cette équipe là on ne s'est pas régalé en général, on a souvent été déçu, sauf que ce soit contre Villarreal, que ce soit contre Donetsk, que ce soit contre qu'il y avait Ampoule, il y avait Athènes, il y avait
Brighton,
et il y avait l'Ajax, tu te rends compte finalement que l'OM a mis des buts, que l'OM a souvent gagné, a même pratiquement gagné tout le temps, je crois qu'il y a que nul contre Brighton, je pense.
Ouais, voilà.
C'est ça. Donc tu te rends compte que et c'est là où, si tu veux, ton analyse rationnelle est gênante, parce que on se rend compte même cette année où l'équipe est pas fabuleuse, où il y a des recrues qui ont eu du mal à trouver leur marque, où on s'est souvent ennuyé. Eh ben, en Ligue Europa, ça n'a pas été le cas. Ça a été des matchs enlevés. Le match contre l'Ajax, ça doit être un 4-3, si je me souviens bien.
Ouais. Oui, voilà. Avec donc, une équipe d'Ajax, on peut pas dire que c'est la meilleure de ces dernières années.
Oui, mais ça, c'est toujours pareil. Quand tu fais une analyse, dans l'analyse, il y a le pour et le contre, il y a le noir et le blanc, il y a le positif et le négatif. Tu peux voir que le négatif, comme tu le fais depuis tout à l'heure, et nous on peut voir que le positif par exemple.
Et on peut
aussi se reporter à l'histoire de ce club là malgré tout. L'année où ça va en finale contre l'Atlético, c'est pas une saison fabuleuse à le championnat, parce que je crois qu'ils se qualifient pas pour la Ligue des Champions qui était leur objectif.
Mais alors puisque Jérôme est parti sur l'effectif, à l'époque
ils avaient quand même des meilleurs joueurs.
L'effectif était meilleur, mais Leipzig était meilleur que ce que montre Benfica aussi depuis le début de la saison, et le match avait été fou. C'est-à-dire moi je parle d'Iran, c'est que ce soir, il peut tout se passer dans ce match-là. Bien sûr que si l'OM fait ce qu'il faut à un championnat, on peut s'ennuyer, puis ça peut mal tourner. Mais ça peut aussi vite prendre feu. Je répète, par rapport à l'histoire de ce club-là, par rapport à ce qui s'est passé contre Villarreal, qu'est-ce qui s'est passé contre Villarreal?
Ils n'étaient pas assez forts aussi. Villarreal, quand tu mets 3 buts à Villarreal en une mi-temps, sachant que.
Et ça, c'est pas possible, ça, puisque ça a déjà eu lieu, c'est pas possible.
Ce qui n'est pas possible, c'est l'état d'esprit de Benfica qui sera complètement différent.
Benfica, c'est qui? C'est un grand d'Europe.
Villarreal, et Eric, tu le sais comme moi, Villarreal, quand ils sont arrivés à Marseille.
Déjà,
il n'a pas mis sa meilleure équipe, l'entraîneur. C'est une réalité. C'est vrai. On l'a vu sur le match retour, il a mis sa meilleure équipe. Au match aller, il ne l'a pas fait. Vraiment que ce match-là, ils n'en avaient pas fait une priorité, Jérôme. Villarreal. Du moins, ça, c'est mon ressenti.
Donc celui-là, il ne te convient pas. Celui contre Donetsk, qu'est-ce qu'il y a? Ils n'étaient pas en forme, ils n'avaient pas joué. Dis-moi. Donc c'est quoi le match qu'il faut prendre? Ce qu'on a perdu, du coup? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup au Stade Vélodrome. Il n'y en a qu'un.
Non, les matchs qu'il faut prendre.
Au Stade Vélodrome, les matchs perdus, il n'y en a qu'un. Donc si tu veux qu'on prenne l'exemple sur celui contre Paris.
Est-ce que tu estimes, toi, que Benfica est supérieur à Villarreal?
Benfica, ils n'ont pas de pression. Moi, je pense qu'on les survend.
Réponds à ma question. Est-ce que Benfica, pour toi, est supérieur
supérieur à Villarreal ou supérieur à l'Ajax? Je ne suis pas sûr que Benfica soit supérieur à Villarreal.
Donc, tu as raison d'être optimiste. Je suis d'accord avec toi.
Parce que moi, contrairement à toi, dans toutes les analyses qu'on peut faire en positif ou en négatif, toi, tu vois les négatives et moi, je vois les positives. Mais moi, j'explique pourquoi je vois les positives. Parce que ce soir.
Eric, ça veut dire quoi? Je te dis juste que des références contre une équipe. Alors toi, tu vois Benfica vraiment pas bon, parce qu'à l'arrivée tu les vois inférieurs à l'Ajax et tout ça.
Moi je pense que Villarreal, l'Ajax et Brighton,
ils n'ont pas de joueurs à la hauteur de Di Maria, par exemple.
Je pense juste que le match de ce soir ne peut pas être imaginé par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Parce que ce qui va se passer ce soir, peut-être que ce qui va se passer ce soir va montrer les limites de l'OM. Mais je vous dis, dans l'histoire du club, on a vu beaucoup de matchs comme ça où l'équipe prenait feu.
Non, mais même dans l'histoire du foot,
l'OM n'est pas plus faible que Benfica.
Pascal, un peu de sagesse.
Je vais mettre un peu de clarté. Jérôme, non, tu as raison. Les deux présidents, celui de l'OM et de la Ligue, tu as raison, ils y vont pas. Nous, à Marseille, on n'a rien, on n'a pas de public, on n'a pas de joueurs, on n'a pas d'entraîneurs, ils sont tous à.
Qui a dit qu'il n'y avait pas de public?
Non, mais écoute-moi, j'ai juste une question. Qu'est-ce qui était le plus difficile pour Marseille ou pour Paris de se qualifier?
Mais je vois
pour
pas
le match retour.
C'est
une analyse, une question.
La question, c'est que Paris, on va pas comparer les joueurs quand même, Pascal.
Je compare pas les joueurs. Le scénario.
Jérôme, je voudrais savoir où veut en venir Pascal.
Je sais pas quoi il veut en venir, mais.
Donc il va nous dire.
Mais le scénario le plus dur au match retour, lequel était, pour Paris ou pour Marseille?
Ben, je vois pas l'intérêt de te dire ça, parce que
dans les pronostics, c'était plus difficile si les, ils sont plus en faveur de l'OM que de Paris Saint-Germain.
Remonter un score à domicile, c'est quand même plus facile que remonter un score à l'extérieur. On est d'accord.
Ce n'est pas un exploit de ne pas se qualifier contre Benfica. Ok, ils prennent pas beaucoup de buts, mais déconne pas.
C'est pas un exploit.
Même tous les Portugais qu'on a en Corse, ils sont pour l'OM. Les gars, ce soir, c'est pas un exploit de battre Benfica.
D'accord.
Ils vont exploser.
D'accord, ok.
Et qui va
les faire exploser, Aubameyang?
Eh ben oui,
non,
parce
c'est
que
mon public.
Ah, d'accord, le public. D'accord.
Je savais pas que le public.
Non,
mais Jérôme, des petites ailes au cul, Jérôme.
Non, mais je pensais pas qu'il marquait.
Jérôme.
Contre Paris aussi, il y a le public qui poussait, mais ils ont pas réussi à marquer. C'est bizarre.
Mais Jérôme, Paris, qu'est-ce que tu me cagues un cake?
Non, mais je te dis,
ça n'a rien à voir.
Alors, c'est toi qui as mis Paris sur la table.
Excuse-moi, Pascal, mais tu me parles d'ambiance.
Les supporters n'ont jamais marqué un but. Oui, scénario. Mais je vous parlais du scénario pour savoir si on ne peut pas se qualifier, nous.
Non,
mais Jérôme.
Vas-y, Eric.
J'essaie de relever le débat.
Merci pour ça, d'ailleurs. Jérôme, on va lever le nombre des équipes.
Oui.
Et on va mettre deux équipes se rencontrent en Coupe d'Europe.
Jérôme est au fond de la casserole.
Une équipe reçoit une autre qui est même, allez, je te l'accorde, qui est peut-être un petit peu plus forte. Allez. L'équipe B qui se déplace est un petit peu plus forte. Elle a gagné deux buts à l'aller et elle va jouer chez une équipe où il y a le meilleur buteur de la compétition. Ouais. OK, qu'est-ce qu'on dirait dans les pronostics?
C'est impossible.
Toi qui dis les pronostics, tu dirais quoi? Tu dis attention, cette équipe elle est plus faible, mais par contre ils ont un mec qui a mis 10 buts,
je dirais, à Athènes, par exemple,
ils auraient le meilleur but le meilleur buteur, tu arrives au stade d'Olympiakos, c'est la folie et tout, et tu as gagné qu'un but à toi, et tu dirais quoi dans le pronostic?
On enlève l'OM, on enlève tout, tu dis
un but de retard avec le meilleur buteur de la compétition, on regarde pas le match.
Mais je suis d'accord avec toi, Eric. Voilà, et sans connaître les joueurs, c'est ce que je dirais. Le problème, c'est que Marseille, les joueurs, je les connais.
Sauf que ce serait pas la première fois que.
La première fois que Harit, Verretou, Kondogbia, Onaï,
Verretou, il a juste gagné la Ligue Europa, il a gagné la Coupe d'Europe avec la Roma.
Avec la Roma,
oui. Voilà, donc c'est pas les mecs qui découvrent la compétition quand même.
Pascal voulait encore élever le débat.
Le débat, Pascal, parce que c'est vrai que là on était.
Oui, Pascal.
Non mais Jérôme, il a bien renversé le Real, non?
Oui. Mais je vois pas.
Il y avait d'autres joueurs.
Pourquoi ça serait impossible, Jérôme?
Je donne la parole à Mathieu, mais je réponds juste à Pascal. Pascal, je te parle juste de l'effectif et à Eric, c'est la même chose. Dire, moi, je demande qu'à être surpris, mais ça fait des mois et des mois qu'on demande qu'à être surpris des joueurs qui vont être alignés aujourd'hui à l'Olympique de Marseille. Donc, d'un moment, bien sûr que je suis pessimiste. Dire, on peut faire table rase du passé et dire, sur ce match-là, avec la ferveur, Jérôme, parce que c'est un quart Jérôme, de finale d'Europa League, et ben, Jérôme, tous les mecs vont augmenter leur niveau et ils vont être impressionnés.
Je vais t'expliquer.
Oui,
mais on l'a pas vu depuis le début de l'année.
Gagner 1-0 chez toi, c'est un exploit, du coup.
Alors, Mathieu nous rejoint au 32.
Salut Mathieu.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir Mathieu.
Salut Mathieu.
Bon,
Jérôme.
Oui.
Première question. Voilà, direct. Pourquoi tu es toujours contre l'OM?
Mais c'est faux, Mathieu. Non mais Mathieu,
il a toujours voulu jouer chez nous, Mathieu.
Jérôme, oui. Si vous parlez, tu te dis supporter du foot français.
C'est vrai.
Et pourquoi là, tu es contre l'OM?
Mais attends, Mathieu, on a pas
compris. Le problème, tu n'es pas réaliste, c'est que tu donnes aucune chance à l'OM, Jérôme.
Il a raison ce qu'il dit, Eric et Pascal. Tu n'es pas réaliste.
Mais si, je suis réaliste, au contraire.
Justement, il est trop réaliste.
Je t'écoute parler depuis tout à l'heure en disant que l'OM n'a aucune chance, je ne sais pas quoi, enfin bref. Écoute bien ce que je te dis. Tu te rappelles quand je t'ai appelé contre Villarreal?
Ouais.
Je te souviens, je t'ai dit, l'OM, ils vont les enfoncer à Villarreal.
C'est vrai. Et tu as eu raison.
Écoute bien ce que je te dis, ce soir l'OM, il gagne 3-0 contre Benfica.
Eh ben écoute, je souhaite que ça. Sache Mathieu une chose, c'est pas que je suis contre l'OM, au contraire, moi je suis pour le football français. Non mais si, en fait je me fais mal comprendre. C'est que je vais te dire Mathieu la vérité, tu rigoles mais c'est ça. Qu'est-ce que j'en ai à faire de Benfica? Moi je regarde juste les forces et les faiblesses des deux équipes. Je me dis que Benfica, je les ai moins vus jouer que l'Olympique de Marseille qu'on voit toute l'année et même en Coupe d'Europe, d'accord? Non, mais... Et que aujourd'hui avec l'effectif de l'OM, mis à part Aubameyang qui a surpris son monde en étant encore une fois meilleur buteur d'Europa League, les autres m'ont toujours déçu. Donc je demande qu'à me tromper. D'accord. Écoute, okay. Déjà tu as te tromper.
Juste question à te poser.
Oui.
Tu as regardé le match aller?
Oui, on l'a commenté.
Tu as regardé que Benfica ou tu as regardé l'Olympique de Marseille?
J'ai juste vu Marseille qui a eu une demi-occasion et qui a marqué un but sur une erreur ce soir, il faudra mettre deux buts d'écart, deux buts. T'as vu le but de parce que tu me dis, mais devant mes contradictions au match aller. Mais il n'y a pas de problème au match aller. La dernière demi-heure était bien meilleure que la première heure qui était infâme à regarder. C'est la réalité.
La première mi-temps a été dégueulasse.
Si Silva, le défenseur de Benfica, il apprend pas sous le pied, Marseille, il marque jamais.
Alors, Mathieu,
jamais.
Encore une question avant de donner la parole à Eric et Pascal. Vas-y, Mathieu.
Moi, j'ai une question.
Encore une?
Tu les as vu les faiblesses défensives de Benfica ou pas?
Mais je regarde tous les matchs, t'en fais pas. Je regarde.
Tu dis qu'on a aucune chance.
Mais tellement il y a une faiblesse au match aller, tu les as vu les faiblesses défensives de Benfica, Mathieu? Au match aller? T'as été impressionné du jeu offensif de l'OM, toi, sur le match aller? Réponds à ma question, Mathieu. T'as été impressionné du match offensif de l'Olympique de Marseille à Benfica?
Pas du tout.
Bon, bah d'accord. Bon, bah alors.
On va dire une équipe plus compétitive avec des joueurs qui sont blessés, parce qu'il y a des joueurs blessés dans notre effectif. Benfica, à la
Ligue,
tu
perds pas. Oui, mais okay. D'accord. Mais bon, les joueurs blessés sont encore blessés aujourd'hui. Et puis, Mathieu, juste pour finir,
et
pour
parler
aussi à Eric et à Pascal, moi, je veux bien, mais avant des matchs de Coupe d'Europe, pour faire des exploits aussi, et pour te transcender avec la ferveur qu'il y a à Marseille, il faut aussi avoir un petit peu de confiance en soi, tu vois. L'OM, c'est 5 défaites de suite. Après avoir gagné 4 matchs de suite, 5 défaites de suite. Non, et on là, est passé par là aussi.
Tu vas nous sortir tous les chiffres. Moi, le seul truc qu'on peut te reprocher, Jérôme, c'est que, et ce qui est étonnant dans ton raisonnement, c'est que tu ne donnes aucune chance à l'OM.
Mais non,
tu
l'as dit. Il a laissé un petit.
Alors, donc, quand vous parlez, vous vous souvenez plus ce qu'il a dit. Donc, vous vous souvenez plus ce qu'il a dit hier, et vous vous souvenez plus ce qu'il dit en introduction de ce débat. C'est-à-dire que c'est. Voilà, donc vous réécouterez si vous ne vous souvenez plus de ce que vous dites et que vous devenez fada, vous réécouterez. Jérôme ne donne aucune chance à l'OM. Et ça, quand on connaît le foot et surtout quand il n'y a pas autant d'écart entre les deux équipes, c'est impossible de dire ça. Ce serait Liverpool en face.
On attend le match.
Tu peux faire un débat en disant je ne les vois pas passer parce que ça.
Oui.
Mais
dans le foot, tu donnes un truc et je demande qu'à me tromper.
Tu dis qu'il y a zéro chance. Tu dis que l'OM n'a pas le niveau pour passer, a pas les armes pour passer. Ouais. Et de même, parce que c'est sûrement toi qui va avoir raison du coup, parce que tu es sûr de toi. Nous, on n'est pas sûr de nous.
Mais par contre,
si ça tourne mal, tu vas venir nous expliquer quoi demain?
Je dirais bravo.
Jean-Louis,
contrairement à toi, Eric, ça m'arrive de manger mon chapeau.
Écoute-moi, tu sais quoi, c'est mieux qu'on parle plus de l'OM. Parlons de Lille, il joue là tout à l'heure.
On va en parler.
Visiblement, Pascal est même rédacteur en chef de l'émission, en plus d'élever les débats. Donc bravo Pascal.
On fait pas Pascal, on va continuer, ça tombe bien, on va continuer à parler de l'OM.
L'OM, c'est tout à l'heure à 19h, on reparlera d'Aubameyang. On remercie Mathieu d'être venu au 32-16, mais comme ça vient d'être indiqué par le rédacteur en chef de l'émission, Lille, c'est dans une seconde. On va retrouver Jean Baumel au stade avant Lille-Aston Villa en Conference League.
Chaud,
et on va s'attaquer à ceux qui en veulent encore à Martinez. Est-ce qu'ils sont pas ridicules? À tout de suite.
RMC, 18h-20h. Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
18h29 sur RMC, la deuxième demi-heure de Roten sans flamme, de ce Roten sans flamme exceptionnel. Oui, encore en mode Coupe d'Europe. Lille va jouer dans 15 minutes son quart de finale retour contre la Aston Villa. Et bien sûr, à 21h, on en parle depuis 18h. L'Olympique de Marseille reçoit Benfica pour la vengeance de la main de Vata. Jean-Louis Tour, oui. Eric Dimeco et Pascal Olmeta. Et dans 15 minutes, on a un supporter de l'OM qui va venir nous détendre. C'est Julien Cazard.
Oui, bien sûr. Et le coup d'envoi de Lille Aston Villa, on va tout de suite à un quart d'heure du coup d'envoi au stade Pierre Mauroy retrouver Jean Baumel qui va nous commenter le match tout à l'heure. Salut Djibo.
Bonsoir. Salut Djibo. À tous.
Et le feu.
Ah, ça commence à être le feu, ouais, parce que stade à guichet fermé, 47 000 spectateurs dont 2600 Anglais qui ont fait le déplacement. Bon, il y a ce but à remonter et au niveau de la compo lilloise, c'est quasiment la même que la semaine dernière, à l'exception de Dedon Zegrova qui est blessé à la cheville et Youssouf Yazici qui est titulaire. On pensait voir Angel Gomez, le jeune international anglais, mais pareil, hein, il est un peu juste, il a fait quelques minutes jeudi dernier et c'est Haraldsson donc qui est titulaire. Donc voilà, Lille qui avait fait bonne figure la semaine dernière, ouais. Et surtout avec Emiliano qui avait été très bon, donc il y a de l'espoir de se qualifier. Il faut faire un gros match ce soir.
Est-ce que le fils de Pascal est sur la feuille de match?
Je te dis
qualifié.
Ça dans.
Il n'est pas qualifié.
Non, mais il n'est pas qualifié.
Il n'était pas inscrit.
Bah oui.
Mais je sais qu'il a prolongé, Pascal.
Et voilà, il a pas prolongé, il a signé son premier contrat pro.
Voilà.
Bravo, bravo.
Bon, allez, merci Djibo.
À tout à l'heure.
Et ce match, tu dis pas ça?
Ah si, nous l'a dit.
Il est dans les tribunes. On ne pouvait pas passer à côté, nous. Ce soir, c'est le retour de l'ennemi public numéro 1.
RMC, Roten sans flamme.
Il va falloir venir chez nous, hein. Il faut pas avoir la grippe ni la gastro, parce que ça va se régler comme d'habitude, comme des hommes, comme des Corses.
Faites entrer l'accusé.
Et pour la première fois depuis le 18 décembre 2022 et cette fameuse finale de la Coupe du Monde, Emiliano Martinez sera donc sur un terrain français avec Aston Villa à Lille pour ce quart de finale de Conference League. Celui que la France déteste pour son attitude depuis ce France-Argentine perdu va donc être reçu par des sifflets, des chants hostiles. Ce sera chaud, promettent les supporters lillois, ils l'ont dit à Djibo hier. Mais alors ceux qui en veulent toujours à Martinez sont accusés ce soir d'être ridicules et l'accusation est menée par le procureur Pascal Olmeta. Bonsoir monsieur le procureur.
Mon Dieu. Bon hasard à toutes.
Vous vous y connaissez en gardien et en provocation, donc c'est important d'avoir votre avis. L'avocat de ceux qui en veulent donc à Martinez, c'est maître Jérôme Roten. Bonsoir maître.
Bonsoir.
Et le juge Dimeco va trancher. Bonsoir monsieur le juge.
Juge impartial.
Ah bah bien sûr, surtout sur le sujet.
Ouais.
Alors, monsieur le procureur Olmeta, qu'est-ce que vous reprochez à ceux qui en veulent encore à Martinez?
Ben, qui sont totalement ridicules comme Jérôme. Bon, enfin, le seul
ballon d'or. Parce que je risque d'être ridicule moi aussi du coup. Hein.
Ah bon, on va voir. On ne sait pas ce que tu penses.
T'inquiète, je t'ai vu tout nu, tu es jamais ridicule.
Bon, le seul. On n'a pas les trucs vrais.
Ah pourquoi c'est faux? Non, mais c'est vrai, je vous le confirme.
Ah ben, c'est sûrement. Oui. On te fait confiance, Pascal.
Ouais, non, pas de problème. Hein, Béco?
Allez.
Bon, le seul ballon d'or qu'on ait eu, c'est en 63, les gardiens de but, Yachine.
Oui.
Il n'y a pas longtemps, il y a eu le trophée Yachine. Et dans les cinq gardiens, il y avait Courtois, Henderson, Ter Stegen, Bounou et notre ami Martinez, Emiliano Martinez. Et c'est un hasard, quoi. Et ça a été le meilleur gardien au monde, un des meilleurs gardiens au monde. Il a été meilleur gardien du tournoi, la Coupe du Monde. Il a arrêté 3 pénaltys. C'est certain que ce match contre la France, il était vraiment en plein dedans, on a pu le voir, puisque même à la dernière minute, il sort un ballon où on aurait pu la gagner, nous. Mais il a fait gagner son équipe, il a fait gagner un peuple. Et quand un gardien, il est vraiment dans son monde, parce que je peux en parler, je le sais, et certains, ils peuvent ouvrir leur gueule, ils y comprennent rien. Voilà, il ne faut pas aller le chatouiller. C'est vrai que je ne suis pas là pour l'excuser par rapport à certains gestes.
Ah bah si, apparemment.
Non. Je te parle de l'homme. Il a 31 ans. Il est pour moi un des meilleurs au monde.
Un peu creux.
Voilà. Aujourd'hui, il y a que certains imbéciles qui vont continuer.
Et lui, c'en est un imbécile ou pas?
Quoi?
Il est imbécile lui ou pas?
Mais dis-moi, Jérôme.
Non, mais je ne sais pas. Vu que tu traites les gens d'imbéciles,
il a fait de mal à personne. Il a fait gagner son.
Lui n'est pas imbécile.
Son équipe. Ça ne mérite pas de la haine, Jérôme.
D'accord. Okay.
Je défends le gardien. Deux ou trois gestes, ça a pu choquer. Mais il ne faut pas oublier que les gardiens sont particuliers, sont à part. Vous, Voilà, ils ont des pressions énormes. Pour lui, il a fait gagner son peuple, un peuple argentin, comme rêvait peut-être notre gardien de faire gagner la France entière. Et ben, ça n'a pas été le cas. Et ben voilà, il a pété un câble, mais dans le bon sens. Voilà, c'est tout.
Ok. Alors, merci. Jérôme, c'était il y a un an et demi. Est-ce qu'on peut pas passer à autre chose là ?
Non, il faut pas avoir la mémoire courte. En fait, il faut pas oublier ce qui s'est réellement passé, parce que je veux bien que on arrondisse les angles du côté de Pascal Olmeta et puis qu'on dise et c'est les gardiens, la confrérie des gardiens, ouais. Et puis les gardiens ils sont dans leur monde et oui, mais heureusement que les gardiens sont pas tous avec un QI, je passerai les mots, tu vois, un tout petit QI.
Et là tu parles de Martinez, pas de Pascal,
de Martinez, bien sûr.
Donc t'es un gros cul, t'as pas un petit
QI. Moi c'est pas grave, mais t'en fais pas, il m'a servi à beaucoup de choses. Exactement, moi je te dis juste que Pascal, pour te répondre, dire je comprends pas ta façon de défendre la confrérie des gardiens, qui ont craché sur l'équipe de France, sur la France, sur ton pays, à moins que tu te sentes pas français, et à partir de là je peux comprendre que tu défendes Martinez et qu'on oublie.
Il a fait son boulot,
mais ce que
Jérôme,
je vois, le geste obscène qu'il a fait quand il a reçu son trophée. Déjà,
c'est quoi les gestes
avec le trophée, oui, quand même. Il le met à la place de son sexe,
direction des supporters français. En plus, je vois pas en quoi il a pris en grippe les supporters français qui ont supporté leur équipe là-bas.
Vu ce que je faisais sur les terrains, j'aurais dû prendre 15 ans de prison.
Oui, mais toi, c'était une autre époque. Là, aujourd'hui,
tu veux que je te raconte une histoire d'un confrérie des gardiens ?
Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Je t'ai laissé parler et après voilà.
Mais on passera pas à côté de ça, Pascal.
Il y a pas de problème. Moi, le premier geste obscène, alors je trouve ça incroyable dans un pays en plus. Bon, le Qatar qui est comme ça, je pense qu'il faut aussi réfléchir un petit peu plus que le bout de ton nez. Mais
parce qu'il fallait s'adapter au Qatar.
Je pense que dans le contexte où il était. Je pense que ça s'appelle juste du respect. Mais lui, apparemment, il en a pas de respect. Il est juste content et tant mieux pour lui d'avoir été champion du monde et d'avoir été, comme tu dis, décisif sur la finale. Au moins sur la finale, quoi qu'il l'a été aussi avant. Et après, il y a la célébration en arrivant là-bas. Alors, c'est sûr que les images, aujourd'hui, on voit tout. Tu n'étais pas juste enfermé en Argentine quand tu célèbres ça. Et alors, la poupée qui a mis mal à l'aise tous ses coéquipiers sur Kylian Mbappé, sur la façon de parler des Français. Il a continué même en Angleterre quand il est retourné dans son club. Donc, c'est normal, Pascal, qu'en revenant en France, comme un certain Léo Messi qui est venu cracher sur la France et sur le Paris Saint-Germain depuis qu'il est parti, quand tu reviens en France, heureusement qu'on va pas te déplier le tapis rouge en disant c'est génial, lui est champion du monde, c'est un grand gardien. Je parle pas de ses compétences, je parle juste de son QI, de son intelligence. Et malheureusement, pense que il en manque beaucoup d'intelligence chez ces joueurs là. Ouais. Donc j'encourage les Lillois
sifflez-le.
À le conspuer. Allez-y, prenez vos sifflets, sifflets. Allez-y, enfoncez-le.
Avant le verdict du juge, Pascal, est-ce que ton anecdote est racontable à la radio, sachant qu'il y a des enfants qui écoutent?
Non, je parle pas de cul ni rien, t'inquiète.
Bon, alors vas-y.
Non, tout simplement, si ce soir, j'espère qu'il va passer au travers, parce que si ce soir il est comme le gardien du Real hier, tu as vu, ça fait gagner une équipe. Non, Jérôme, la confrérie des gardiens, je vais t'en raconter une. Peut-être tu étais pas né, René Vignal. Tu sais, tout jeune, il commençait à jouer. Il est parti avec un Corse, ils ont fait un casse. Tu sais quoi ? Quand il a été chopé, il n'a pas voulu parler, il a fait la prison pour l'autre.
Et alors ? D'accord.
Voilà la confrérie des gardiens.
Ah ouais, donc ça veut dire qu'en réalité. Non, mais dans la mafia, c'est que des gardiens, alors, puisqu'ils ne parlent jamais, les mecs.
Donc, on est là pour faire le job, pour faire le boulot, d'accord, et puis c'est tout.
Bravo, Pascal.
Pas de question. On rattrape les erreurs de nos défenseurs, point barre.
Pascal, merci pour l'anecdote.
Elle est magnifique, celle-là.
Fais-toi un
gardien. Et c'est vrai, elle est réelle.
Ah on te croit. De 49 à 54, le gardien de l'Europe.
C'est le gardien.
Et vu que c'est une confrérie, dis à ton fils d'aller prendre une photo avec lui.
Non, il est décédé il y a 8 ans. Ça va être compliqué, Jérôme.
Non, avec Martinez.
Avec Martinez, oui, bien sûr. Bon, en tout cas, merci Pascal.
Qu'est-ce que tu dis, Jérôme, Maria ?
Non, mais qu'il y aille, si c'est une référence.
Tu as élevé le débat et maintenant, on sait vraiment qu'il y a dans la tête d'un gardien grâce à cette anecdote. Ouais. Alors, Eric, le verdict.
Ah, écoute, moi, le problème, c'est que vous savez ce que j'en pense, puisque moi, j'ai critiqué fortement, comment il s'appelle, Martinez. Notre ami, la Martinez, par ce
comportement. Le joueur, il n'y a rien à dire, hein, il a été énorme. Il est un grand artisan du titre de champion. Il restera dans l'histoire. Non, mais c'est... moi, je trouve même que ça fait partie du folklore du football. Voilà, il y a des têtes de Turcs, il y a des mecs qui... moi, je me suis fait siffler. Même quand j'étais à Monaco, je me suis fait siffler au Parc des Princes. Et ben voilà, c'est l'histoire du foot, c'était le folklore. Les mecs n'oublient pas, je trouve ça bien. Il est hors de question de l'agresser ou de lui jeter des trucs dessus. Si les Lillois le sifflent pour lui rappeler un peu, et lui-même, je pense qu'il s'attend à être sifflé, et je pense même qu'il va s'en nourrir de ça. Même qu'il est capable de danser comme faisait Pascal quand il était venu au Stade Vélodrome. Donc si tu veux, moi, pour moi, tant que ça dépasse pas les bornes, que c'est des sifflets, des chansons, mais c'est pas grave, c'est le folklore du foot. Juste lui rappeler qu'il est en France, qu'il s'est pas très bien comporté, c'est pas grave, c'est que du football. Personne va aller en prison, personne va avoir du mal.
Eric,
moi, je suis d'accord avec Jérôme.
Un truc, hein.
Non, le verdict, c'est Victor de Jérôme. On a compris. Mais tu peux nous raconter un truc quand même, Pascal.
Non. Ah, sur Eric ?
Bah oui, tu avais envie.
Ben non, mais on n'est pas obligé de tout raconter non plus quand même.
Toi, t'as peur.
Ah, mais non, mais le problème, c'est que des cadavres, on en a quelques-uns tous les deux avec Pascal. Donc, je croyais qu'il parlait pas, moi, les gardiens. Oh, hein, la confrérie.
Je balance pas.
Une tombe.
Vous auriez mieux fait de faire un casse ensemble, visiblement. Là, tu n'aurais pas balancé.
Ah, bah oui. Malheureusement, c'est pas des casses qu'on a fait ensemble.
Allez, dans une seconde.
Ah, merde, passe quoi.
Le coup d'envoi de Lille à Aston Villa, justement, avec Martinez sur la pelouse et le casar enchaîné. Restez avec nous, et tout de suite.
RMC, jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten.
18h46 sur RMC, on est là, on est bien, on finit la première heure de Rotten sans flamme avec Julien Cazar et son Cazar enchaîné. On est toujours avec Pascal Olmeta, avec Eric Dimeco. Ils sont chauds. Oui, l'Olympique de Marseille va bientôt commencer son match retour contre Benfica. On est avec Jean-Louis Tour. Oui, mais il y a Lille avant.
Et oui, Lille a déjà commencé contre Aston Villa. Quart de finale, retour de conférence. Lille a un but à rattraper face à Aston Villa, Jean Baumel.
Exactement, une minute de jeu. Les Lillois qui ont pu souvent le ballon. Démarre avec peut-être une interception de Jonathan David, mais oui, comme une faute au préalable sur Ezri Konsa, et dit lui-même le Canadien à l'arbitre slovaque, c'est lui qui a été victime. Bref, le ballon va revenir en faveur des Anglais. Grosse ambiance ici au stade Pierre-Mauroy, je vous le disais, hein, avec 47 000 spectateurs, grosse ambiance, beaucoup d'Anglais aussi qui ont fait le déplacement depuis Birmingham. Et là, les Anglais là, qui sont à l'attaque pour l'instant. Démarrage un petit peu tranquille, c'est pas l'euphorie, mais voilà, Lille doit remonter un but, tu l'as dit Jérôme, pour espérer une prolongation.
Allez,
et deux buts d'écart, ça c'est encore mieux.
Siffle-moi le gardien là, allez.
Ah bah écoute, je peux te dire, j'ai fait un reportage avec les supporters hier, et quand il est rentré sur le terrain, il en a pris plein la tête. Hein.
Fais-lui une petite licorne.
Allez, merci Djibo, tu interviens dès qu'il se passe quelque chose, bien sûr.
Écoutez, c'est pour lui.
Voilà. Ah oui, là il a le ballon, Martinez, ok. Ah bon, on se rend bien compte. Allez, on y va, tu interviens même avec Julien Cazard qui arrive.
C'est Rotten sans flamme.
Le casar enchaîné.
Bonsoir à tous et à tous. Alors, j'ai une petite pensée pour les Lillois quand même, parce que qui doivent bien se dire que leur match est tellement important qu'on préfère quand même mettre ma séquence que de faire le live intégral de leur match.
Excuse pas, Julien. Allez,
ils
vas-y.
Ils ont qu'à être en, mais moi je leur dis, ils ont qu'à être en demi-finale et après on discute. Après on verra. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le jeudi 18 avril 2024 et le Paris Saint-Germain n'est toujours pas éliminé de la Ligue des Champions.
Oh, ça, tu vas nous faire ça encore pendant 3 semaines? On va devenir fou. Elle sort de match de l'OM. Lâche-nous la grappe avec ton équipe de demain, je viens. Ou tu parles de l'OM, ou tu fermes ton cul. Ou suce-toi. Ou les trois.
Oh là là.
Pardon.
Ouais, t'as raison, on aurait pu faire Lille à Aston Villa. Quelle erreur.
Jean-Louis, tu dis que moi je suis grossier.
Ah ouais, non, là, c'est pas possible.
Okay, alors déjà, moi, c'est pas moi. Déjà, je suis complètement de gros Samir. Gros Samir. Mais il est tendu, vous êtes fou. Il y a un match de fou. Il est tendu. Pardon, gros Samir, c'est juste factuel. Mais effectivement, nous sommes le jeudi du terrain. L'OM n'est toujours pas éliminé de la Ligue Europa non plus. Hein. Tiens, Jean-Louis, tu dis pas, on n'a jamais été aussi proche, Jean-Louis. Non, tu dis pas ça là.
Non, j'ai jamais dit ça avec le PSG. Hein,
non, mais toi, comme hors antenne, tu me dis non, c'est des dingos, je veux pas d'ennuis, ils vont me saouler, ils sont complètement débiles. Je sais. En plus, ils me disent ouais, de toute façon, vaut mieux pas que je fasse de blagues, ils comprennent rien au second degré, tu me le dis tout le temps. Donc, si. Tu dis pas?
Non.
C'est vrai. Non, c'est peut-être moi. En préambule de ce journal, je voudrais revenir sur au-delà des blagues, sur un moment qui a été quand même hier un moment d'erreur, un moment de faute, un moment où j'ai été pris en flagrant délit de faute dans le quiz. Oui, je veux le dire. Il y avait le moment du coup de kick à quoi dans le dos. Eric, tu connais ce moment où on dit pour dos, telle équipe en numéro. Voilà. Et alors, qui a quoi dans le dos? Fallait deviner le numéro de maillot de le numéro 10 du Barça, champion d'Europe 92. Malheureusement pour moi, Fred Hermel était dans les parages et Fred, il laisse rien passer. Fred,
pour le Barça, finaliste et vainqueur de la Ligue des Champions 1992, en numéro 10.
Alors, Luis Enrique.
Luis Enrique.
En quelle année?
En 92.
Romario.
Luis Enrique, il jouait au Real à cette époque-là.
Romario.
Guardiola.
Guardiola!
Attends, j'ai une réclamation. Subitement, Fred Hermel nous dit qu'il n'avait pas le 10 Guardiola.
J'ai honte. Non mais j'ai honte, Guardiola. Non attends, mais tu t'inquiètes pas. Alors du coup après je suis allé m'excuser auprès de Fred qui a vérifié en direct avec moi.
Et c'est toi qui avais raison.
Et c'est Guardiola qui avait le numéro 10. Voilà. Donc il m'a fait mais il m'a dit autant pour moi,
Plus de foot maintenant.
Mais si.
Non mais en même temps, moi j'en veux pas. Lui, au comptoir d'Estelle, son truc, c'est les fromages à hausser, l'invasion des trottinettes, le manque des sous-marins nucléaires au Turkménistan. Tu vois, c'est ça, c'est son domaine. Alors lui, il s'est lancé sur le Barça, sauf qu'il maîtrise pas. Déjà, en plus, il les déteste. Donc, allez, sommaire. Dans cette édition, nous reviendrons encore une dernière fois sur la soirée magique de mardi. C'était un moment de bonheur, d'extase, de jouissance. Toute la France du foot était avec le Paris Saint-Germain, Pascal, Eric, tout le monde. Et surtout Manu Petit qui était au commentaire. Et alors lui Manu Petit, quand il commente, c'est vraiment une jouissance.
Elle est bonne. Contre de Dembélé, c'est touché par Zaïre Emery. Il reste encore une minute, un peu moins dans le temps additionnel de la première période. Ballon pour Vitinha.
Elle est bonne.
Dembélé, Ousmane Dembélé. Il aime ça, Vitinha. Bien sûr qu'il aime ça.
Elle est bonne.
Sexy.
Elle est bonne.
Va. C'est fini.
Va. Elle est bonne.
Va. Ça va vite.
Bien. Elle est bonne. Bien. Parce que celle-ci, elle était vicieuse quand même.
Ça va vite.
Elle est bonne.
Ah, j'adore, moi j'adore Manu, il m'emballe. C'est qu'en fait, quand tu écoutes un match avec Manu, t'as l'impression d'être dans un sauna libertin. C'est plutôt sympa. Il est champion du monde. Alors attention, il excelle dans tout Manu, mais vous savez que son point fort, c'est les expressions.
Ah oui.
Et il tombe jamais à côté.
Jamais.
C'est-à-dire que le PSG, ils ont gagné parce qu'ils ont bénéficié. Ils ont bénéficié de quoi, Manu?
Ils font la décision dans ce match-là. Bravo au Paris Saint-Germain. Ils ont bénéficié de certaines circonstances atténuantes.
Oh, ça passe, non?
C'était favorable. C'est dommage parce que c'était les circonstances atténuantes, c'est autre chose. Lui, il s'est dit, je suis lancé sur circonstances. Pour le premier mot qui vient, c'est atténuante. Ils ont bénéficié de circonstances. Alors, dans ce journal, nous abordons l'autre qualification. Dans l'autre match, c'était le Bayern Munich face à Arsenal. Hier, lors du match, il y a eu un arrêt de jeu. Vous n'avez pas vu, peut-être, les Londoniens sont restés au bord du terrain. On ne comprenait pas pourquoi. Ils étaient là, ils étaient bloqués. Alors, Daniel Bravo, pour beIN Sport, lui, il avait son idée.
Mais qu'est-ce qu'il faut, hein? Le Bayern qui a joué très vite.
Il avait indiqué que c'est aussi fallait siffler.
Bien sûr, il y avait la pause fraîcheur.
Il n'y a pas de pause fraîcheur, il fait 3 degrés. La fameuse pause fraîcheur.
C'était la pause de chaleur. Ça va, oh, arrête un peu. C'est pour se réchauffer. Un petit chocolat chaud, un petit thé.
Allez, pas. À Dortmund en avril, t'invites Brune Insolation. D'ailleurs, je fais tous ceux qui nous écoutent sont en vacances scolaires, qui sont en train de faire des bronzettes à Dresde, à Rostock, à Dansk, à Vladivostok. Indice 50, hydratez-vous. Vraiment, c'est hyper important. Dans cette émission, nous parlerons bien entendu de la rencontre de ce soir, parce qu'à mon avis, on peut tourner autour du pôle. L'OM face à Benfica, ça va être le feu. Toute la France, là, pour le coup, vraiment, est derrière l'OM. D'ailleurs, j'ai plein de messages, là, sur le chat de l'émission. Par exemple, Loïc de Andoum qui met Forza pour ce soir à l'Olympique. Samir, de Vitrolles, faites-le pour nous à jamais les premiers. Thierry de Marseille, allez l'OM, en route pour la demi. Jean-Louis de Compiègne, allez Benfica, sortez-moi ces bargeux, ça leur fermera le. Non, ça c'est une erreur. Enfin bref, tout le monde est derrière. Je sais pas qui c'est. Ouais, à limite, dingo. Toute la France derrière. Et une personne était derrière l'OM aussi, aujourd'hui. Ségolène Royal, qui était sur le plateau de BFM TV, qui a voulu, à sa manière, encourager l'OM avec une tirade d'un des plus grands poètes phocéens. Marcel Pagnol, Edmond Rostand, Frédéric Mistral. Non, mieux que ça, c'est sur BFM, c'est Ségolène.
Tu sais bien, et là, je vous ai entendu.
Organiser. On est personne peut nous canaliser. Ça fume la fumée. La pistée par les banalisés. Hasta luego faisant un. Hasta luego faisant deux. Hasta luego ou hasta luego.
Ah ouais. On est au top de la
neige. C'est dur. Là, ça, c'est dur.
Non mais
il n'y a pas besoin. Pourquoi la France est dans cet état hein.
Il y a des gens qui ont voté pour elle, tous ces gens. Jour, ils devront répondre. Gens qui ont voté pour cette personne.
Réponds toi, Julien.
Jacques-Henri Hérault qui chantait Ayam.
Écoutez, on va parler du vrai club de l'Olympique de Marseille, de ceux vraiment qui veulent que l'OM gagne. Jean-Louis Gasset a fait une causerie de tous les diables pour le match de ce soir et les micros de Flo Germain étaient présents.
Bon, les gars, ce soir, je veux une équipe pour le gagner. Ce soir, je veux qu'on n'ait pas le regret. Parce que ce soir, on peut écrire l'histoire du club. Alors qu'il est, ok, on est éliminé. Mais on a les moyens de tout renverser. Même si en face, c'est pas n'importe qui. Il y a du Drogba, du Costa, du Eden Hazard. Mais nous, on s'en fout.
Mais pardon, mais c'est quoi Drogba, Hazard et Costa?
Attendez, qu'est-ce que je raconte, moi?
Ah, mais Jean-Louis, tu t'as trompé. C'est pas la bonne causerie.
Ah, mais t'as raison, mon Jean-Louis. J'avais pris celle qu'on avait fait avec le Loublin avant Chelsea en 2015 à le Paris Saint-Germain, comme modèle. J'ai oublié de changer les noms.
Eh ben oui, c'est Benfica en face, c'est pas Chelsea.
Pardon. Alors, moi, ce soir, on va faire un marquage individuel à la défense pour être prudent. Basile, tu prends Pacheco. Moser, tu seras sur Eusebio. Et toi, Eric, tu lâches pas Nuno Gomez. Dès que vous récupérez, vous balancez sur Jean-Pierre ou Chris ou Abedi. Tu risques de pas avoir trop la balle.
Ah, moi, c'est pas Abedi, c'est ça.
Mais Jean-Louis, tu as tout mélangé.
Comment ça, c'est pas Abedi? Qu'est-ce qu'il... Il est où, Cazo?
Mais Jean-Louis, y'a pas Abedi, y'a pas Cazo. Qu'est-ce que tu racontes? C'est ça. C'est Ndiaye, c'est Balerdi, lui, c'est Veretout. Et lui, c'est Mombagna.
Ah, merde. Ah, c'est vrai, t'as raison, mon Gisley, ça me revient maintenant.
Mais t'as pris un coup de chaud, et t'étais où, là?
Pardon, les gars, je sais pas ce qui m'a pris, là. En fait, j'étais dans le métaverse.
Dans quoi?
Le métaverse. C'est un monde virtuel où tu vas pour échapper un peu à la réalité.
Et du coup, t'as pas préparé le match?
Et non. Oh, pardon, Gisling. Et pardon, président, désolé. Je sais pas ce qui m'a pris. Je crois qu'on va pas être prêt pour ce soir.
J'étais prêt, vous. Et de toute façon, vous inquiétez pas. Hein. J'étais pas le seul ici. Les supporters, ça fait 30 ans qu'ils sont dans le métaverse. Et heureusement, hein, parce que la réalité est compliquée.
Allez,
vous entendez?
Oh putain, ah oui. Mais ce soir, ils vont prendre une sacrée claque.
Moi aussi, c'est après vous.
Merci. Non,
non, mais ils vont le faire, ils vont le faire.
Et
ils vont
à
le
tout
faire.
À
bien sûr.
Ah oui.
Mais bien sûr.
C'est le Casar enchaîné.
Réécoutez Julien Casar en podcast sur rmc.fr et l'appli RMC.
Lille Aston Villa corner pour les Lillois, Jean Baumel.
Oui, ça n'a. Non, non, ça a été une position de hors-jeu.
Ah, ok, ok. Donc, finalement, 0-0 toujours.
Domination des Lillois hein, dans ces 12 premières minutes avec Jonathan David qui avait l'opportunité avec une belle remise de Yazice. Mais il a frappé au-dessus de la barre transversale d'Emiliano Martinez qui lui a failli faire une mauvaise sortie, okay, mais c'est rattrapé.
Jibo, tu nous racontes tout ça dans une seconde. 0-0. Lille doit marquer pour rester en vie dans ce quart de finale de Conference League que vous suivez sur RMC dans Roten sans flamme. À tout de suite.
RMC jusqu'à 20h.
Roten sans flamme.
RMC 18h-20h. Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
19h02 sur RMC, on est là, on est bien, la deuxième heure de Roten sans flamme, de ce Roten sans flamme exceptionnel, oui, en route pour les demi-finales de Conference League, d'Europa League. On espère en tout cas qu'ils vont imiter le Paris Saint-Germain, ces deux clubs, Lille et Marseille. On est avec Eric Dimeco, avec Pascal Olmeta et avec Jean-Louis Tour, et on va vite aller à Lille.
Aller à Lille.
Et oui, Lille, Aston Villa, Jean Baumel.
L'ouverture du score pour les Lillois avec un superbe centre de la part de Goodmanson, le Suédois, centre en retrait. Zidche qui reprend instantanément. Sarah du poteau droit d'Emiliano Martinez qui est resté droit, qui n'a rien fait. 1-0, c'est logique vu le début de match fait par les joueurs de Paulo Fonseca. Il domine outrageusement l'équipe d'Aston Villa. On est à la 18e, ce but inscrit à la 15e et bien permet et bien Lille d'être à égalité, deux buts partout pour l'instant. Il faut encore en mettre un pour se qualifier pour les demi-finales. Les Anglais qui ont attendu pour contrer, mais pour l'instant Lille franchement fait vraiment le job. Lucas Chevalier n'a pas eu le moindre arrêt à faire, il a quasiment pas touché le moindre ballon pour l'instant au niveau tactique. tactique, eh bien c'est pour l'instant c'est un bon boulot réalisé par le coach portugais Paulo Fonseca. 1-0 pour Lille, 19 minutes de jeu, c'est bien parti.
Ouais, ils font un bon début de match, Jérôme. Ouais.
Je vous conseille la transversale de Yoro et le centre après contrôle, coup de pied et la reprise. Tout est bon sur ce but. Allez regarder ça parce que c'est merveilleux. Ouais, magnifique.
Ouais. Non, mais tu sais que cette équipe de Lille, elle est quand même. Ça joue bien. Et puis, ils sont totalement capables, eux, pour le coup, de se transcender avec ce public qui a répondu présent. Donc, pour l'instant, très bon début de match des Lillois.
1-0 donc pour Lille face à Aston Villa dans ce quart de finale de Conference League. Prolongation si on en reste là. Dans cette deuxième heure, donc le direct, on ne ratera rien de ce Lille-Aston Villa. Mais aussi, on va revenir sur le match d'hier, l'élimination de City, la qualif du Real. Guardiola est-il retombé dans ses travers? Vous pouvez nous appeler au 32-16 pour monter sur le ring des supporters. Et puis le quiz sera là avec Julien Cazard tout à l'heure à 19h45 avec une semaine dans une résidence à Lagrange à gagner cette semaine. Vous envoyez top au 7-32-16 pour vous inscrire. Mais tout de suite... Aubameyang, puisqu'on continue de parler d'OM Benfica ce soir. Et on espère qu'il nous écoute ou que des proches écoutent parce que Pascal a des conseils pour lui.
Tu te souviens de ton premier baiser, Pascal ?
Je ne sais plus où aller, c'est mal dans tes baskets.
Porter des strings pour hommes, Pascal.
Et j'ai trouvé ma vérité. T'es comme moi et tout changera.
Comment ça me gonfle, oh.
Juste avant de débattre autour d'Aubameyang, corner pour Aston Villa à Lille, Jean Vomel.
Ouais, les Lillois sur un coup franc de McGinn. Eh bien, Lillois détourne le ballon de la tête en corner. On va suivre ce premier corner en faveur d'Aston Villa. C'est parti sur le deuxième poteau. Et tranquillement, il s'envole dans les airs, Chevalier. Toujours 1-0 pour Lille, 20 minutes de jeu.
On continue donc notre avant-match OM Benfica. 21h, le coup d'envoi de ce quart de finale d'Europa League ce soir. Un but à remonter pour les Marseillais. Ce sera en intégralité sur RMC avec Florent Germain et Jeannot Rességuier. Débrief dans l'after avec les réactions et débat au 32-16 jusqu'à 1h30 du matin sur RMC avec la libre antenne. Et comme à chaque match d'Europa League, l'OM va attendre beaucoup de Pierre-Emerick Aubameyang. Peut-il qualifier l'OM à lui tout seul? 32-16 pour débattre. Jeannot Rességuier est avec nous au Vélodrome. Salut Jeannot.
Bonsoir tout le monde. Jeannot.
Aubameyang, c'est l'arme fatale en Europa League pour l'OM.
Et 34 buts déjà, c'est le meilleur buteur de cette compétition. Et en plus ce soir il va fêter son 60e match. Quand on regarde dans le détail, 8 buts avec Dortmund, 14 avec Arsenal, 12 avec Barcelone, 10 avec Marseille en 6 matchs. D'où la rentabilité de l'efficacité. Il y a le triplé contre l'Ajax, il y a le doublé contre Villarreal. C'est sa première saison à l'OM, toute compétition confondue. Il est à 25 buts, un ratio de 1,6 buts par match, toute compétition confondue. En plus, il délivre des passes décisives sur l'ensemble de cette saison. Il a marqué le but de l'espoir la semaine dernière à l'Estadio des Luz. 67e minute, alors qu'il y avait 2-1, souvenez-vous, pour Benfica. Alors après, il y a la phrase de Jean-Louis Gasset à son sujet, qui est très explicite. Bon, à la Jean-Louis Gasset avec un peu d'humour. Il dit, je le regarde dormir. Quand on dort à la commanderie, je dors au-dessus de sa chambre pour être sûr qu'il ne lui arrive rien. Et de rajouter plus sérieusement, dans le geste décisif, il est irremplaçable. Bah oui, parce que derrière, il n'y a que Bamba, Memba, Veretout, Sarr, 5 buts seulement, toutes compétitions confondues. Et en plus, il a délogé Drogba et Payet dans l'histoire des meilleurs buteurs européens de l'Olympique de Marseille. On se rappelle qu'il a été sifflé en début de saison, qu'il a remis un petit peu les supporters dans la poche. Et peut-être que ce soir, il va les faire exulter. On ne sait jamais. Parce que contre cette équipe de Benfica, il a déjà fait des grosses soirées à domicile. Avec Dortmund, il avait mis un triplé. Avec Arsenal, il avait mis un doublé. Alors pourquoi pas?
Merci Jeannot. Alors Jérôme, est-ce qu'il peut qualifier l'OM à lui tout seul?
Oui, et là on parlait tout à l'heure de Eric me disait tu vois aucune chance. Oui, la seule chance de Marseille, et de toute façon les stats le confirment, c'est Aubameyang. C'est Aubameyang qui arrive à faire tourner les compteurs avec très très peu de situations. Simplement comme le match aller où il est sevré de ballon pendant quasiment tout le match et il a suffi d'une erreur d'appréciation du défenseur de Benfica pour pour faire tourner le compteur et faire trembler les filets. Donc moi j'attends d'Aubameyang ça, et dans ce contexte-là, le fait qu'aujourd'hui ça soit le chouchou du Stade Vélodrome, je pense que ça le conforte dans ça. Il a totale confiance. Autant les joueurs, et la plupart des joueurs, je pense que la confiance elle disparaît, parce que quand tu gagnes pas, bah c'est toujours pareil, même si c'est des matchs événements, c'est difficile d'avoir confiance en toi quand t'alignes 5 défaites de suite. Autant lui, il fait souvent tourner le compteur. Les deux derniers matchs, c'est un but à Lille, c'est un but à Benfica. Donc il est la confiance, elle est là, et moi je crois en Aubameyang. De toute façon, l'OM, pour faire l'exploit ce soir et se qualifier en demi-finale de l'Europa League, il faudra que Aubameyang arrive à se créer des situations, et surtout avec très peu de ballons, arriver à transformer ses ballons en or, tout simplement. Et il en est capable. Les stats, elles sont quand même ahurissantes. Hein. Il a mis très longtemps, je crois que c'est 8e ou 9e journée, de marquer son premier but en Ligue 1. Il en est déjà à 12 buts, je crois. C'est comme disait Jeannot, mais c'est surtout le ratio en Europa League qui est impressionnant.
Alors, quoi. Tu y crois, là, Jérôme, alors?
J'y crois avec Aubameyang, c'est ce que je te dis. C'est le seul motif de satisfaction qu'on peut avoir du côté de l'OM, c'est d'avoir trouvé un attaquant qui est prolifique, qui marque des buts et qui aide cette équipe à gagner.
Bravo.
Non, j'ai pas changé d'avis. Je dis juste qu'Aubameyang, j'ai aucun doute.
Non, mais Pascal, alors là, je vous renvoie au débat de 18h au podcast.
Aubameyang, j'ai aucun doute sur son niveau de jeu. Je sais qu'à ce niveau-là, il l'a montré.
Il y avait un doute qui t'habitait.
Non, le doute, c'est sur les 9 joueurs de champ. Et plus sur le gardien de but à ce niveau-là, mais pas sur Aubameyang.
Mais donc pour toi, il doit gagner le match à lui tout seul, puisque c'est le seul joueur de niveau international.
Oui, oui.
Est-ce que c'est possible, Eric, à marquer des buts? C'est possible, Eric?
Pour répondre à la question, on a quand même l'impression, quand on regarde les stats, et puis surtout quand on regarde les joueurs autour de lui, puisque ce soir, donc, on a Ndiaye et Harit, c'est ça? Offensivement, on va dire. Tu te dis que celui qui peut justement te faire rendre ce match fou, puisque je parlais d'un scénario qui peut vite devenir fou, c'est-à-dire un petit peu, c'est un scénario à la Lilloise, là, ce que les Lillois sont en train de faire, c'est-à-dire marquer dans le premier quart d'heure ou les 20 premières minutes en mettant une grosse pression sur l'adversaire, j'ai quand même l'impression que c'est lui, que le salut viendra de ses pieds. Il a des stats en Ligue Europa, c'est impressionnant. Et même au match aller, quand on se souvient du match aller où il n'a pas beaucoup de ballons à jouer, il n'a pas beaucoup de bons ballons, l'OM a du mal à sortir le ballon, dès qu'il y en a un qui sort, il la met au fond et il permet à l'OM de rester en vie ce soir. Donc je veux pas dire que c'est la seule chance, parce que il y a des garçons derrière sur corner, sur coup de pied arrêté. On a déjà vu, que ce soit Mbemba, que ce soit Balerdi, que ce soit Gigot, capable de peut-être de mettre un but sur corner, mais dans le jeu.
Et encore, il faut bien les tirer, les corners.
Oui, aussi. Déjà, il faut bien les tirer. Mais dans le jeu, finalement, tu te dis, bon, si je suis entraîneur de Benfica, je mets un dispositif anti-Aubameyang.
Ah, bah oui.
Voilà, parce que j'ai identifié que c'est le seul danger.
Ce qu'ils ont réussi à faire au match aller, Eric, sauf qu'il y a eu cette erreur, il en a profité.
Et oui. On va continuer le débat dans une seconde avec Pascal, avec vous au 32-16 également, mais le jeu est arrêté à Lille face à Aston Villa. Djibo.
Il est KO.
Coup franc de Youssouf Kiazice, magnifique tête de Benjamin André, mais sa tête va, le ballon propulse le ballon directement sur le visage d'Emiliano Martinez qui est un peu secoué. Là, ça va mieux. Et il y a un deuxième corner à suivre pour les Lillois qui mènent 1-0. Et franchement, c'est net et sans bavure.
Super barré du nez. Quoi.
Ah oui, non, mais il a
pris. Ça, c'est technique. Il paraît que ça se travaille à l'entraînement, parce quoi. Barré du nez.
Ah ouais, non, mais ça se travaille. Non, mais tu sais, Beko, au match aller, parce qu'on savait pas que Paris allait se qualifier. Parce que moi-même, j'aurais pas mis une pièce.
Oui, ça, on le sait.
Non, on le savait pas, mais. Quand j'ai entendu les critiques sur Donnarumma, des gars que je balancerai pas, c'est à cause de lui qu'on va être éliminé, c'est à cause de ce gardien, quand il sort, il sait pas où il va,
il a pas fait un super match aller quand même,
Pascal, quand il sort, il sait où il va.
Moi, je sais où je vais, oui.
Non, mais Pascal, Donnarumma, il sait où il va?
Au magasin aussi.
Le match aller de Donnarumma, Pascal, on peut défendre les gardiens, mais il n'a pas été bon quand même.
Sans déconner. Mais même le match retour, arrêtez vos bêtises.
Mais les gars, vous arrêtez pas sur un match. Il n'a pas pris de but quand il est sorti. Il y a eu un hors-jeu. Non, mais de suite, ça y est.
Ah non, mais il a été fabuleux alors. Ok.
Bon, on a dévié sur Donnarumma. Le jeu n'est toujours pas pris à Lille. Qu'est-ce qui se passe?
Il y a un blessé. Zaniolo qui est au sol dans la surface de réparation. Alors, juste avant, il avait pris un coup avec Benjamin André. Et alors, on s'était attardé forcément sur le ballon en plein visage de Martinez qui reste au sol un moment. Bon, a priori, pour l'Italien, ça va aller. Il se relève. Mais on était prêt à le changer. Donc, Sivert qui est intervenu pour rien. Mais surtout, ça casse le rythme des Lillois qui font.
Il y a une pause fraîcheur du coup.
Ouais, bah, t'as vraiment
en tout cas, grosse occasion quand même des Lillois, là, sur ce coup-là, là, encore une fois. Ouais. Et parce que tu m'expliqueras comment ça se travaille, ces arrêts du nez, là, à l'entraînement toute la semaine, là.
Ah, tu fermes les yeux.
C'est pour ça que quand je jouais à Toulon, il y avait Alfano. Tu n'as pas vu le
Luigi, qu'il avait. Peu cher.
Luigi, il prenait tout dans la gueule. et ça me fait penser que nous, notre équipe qu'on avait à Toulon, on attendait qu'une chose, c'est que des Lillois au Nice laisse traîner son pied, ça me fait penser à Aubameyang.
Ouais. Qu'est-ce qu'on a comme anecdote aujourd'hui? Des joueurs comme ça, quand
ah. Ouais, elles sont bonnes, non?
Ouais. Le corner pour les Lillois, Djibo.
Allez, le corner avec Youssouf Yazidche qui va le tirer avec son pied gauche. Il fait un très bon match hein, pour l'instant, l'international turc. C'est lui qui a marqué et surtout, il distille de bons ballons. On va voir ce qu'il va faire, parce que c'était sur le coup franc justement dangereux de Benjamin André. C'est parti, c'est dégagé de la tête par Lucas Digne, ancien Lillois d'ailleurs, formé au LOSC. Et le ballon va sortir. Lille, franchement, fait une brêle très très belle même. Ouais. Demi-heure de jeu, 1-0. Aston Villa n'a pas eu la moindre occasion de but. C'est pour l'instant bon signe. Ça fait 1-0 et 2 buts partout sur l'ensemble des deux matchs.
Aubameyang peut-il qualifier l'OM à lui tout seul ce soir? Le débat continue dans une seconde dans Rotten sans flamme avec vous au 32-16. A tout de suite.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten.
19h16 sur RMC. On est là, on est bien. On continue nos débats dans Rotten sans flamme. On parle d'Aubameyang. On a le match en fil rouge. Lille pour l'instant est revenu au score. Oui, 1-0. Il mène contre Aston Villa. Et oui, en route pour la prolongation. Djibo, il se régale. On est avec Pascal Olmeta, avec Eric Dimeco et avec Jean-Louis Tour.
Oui.
Et bien sûr, nous.
Il n'y a pas que Djibo qui se régale. Hein.
Ah, une grande soirée sur RMC.
Bon match, Lille.
Oui, bah d'ailleurs, tu es en train de manger tellement tu te régales, Eric.
Non, pas du tout.
Bon, quel menteur. Mais ça s'entend. Oh.
Mais non, c'est fou. Je comprends pas pourquoi.
1-0 pour Lille. Tu manges quoi au moins?
Bah, rien.
Mais allez, les chocolats?
Mais non, rien.
Bon, d'accord.
Je mange rien.
1-0 pour Lille contre Aston Villa. Donc, il reste encore une heure, hein, Jérôme. Tu dis, on va vers la prolongation et voilà. Il y a une demi-heure de jeu.
Ah, bah oui.
Pour l'instant, on y est, exactement. Mais on est aussi sur Aubameyang. Peut-il qualifier l'OM à lui tout seul?
Pessimiste aujourd'hui.
Eric nous rejoint.
Pessimiste.
32-16.
Salut Eric.
Ouais, salut l'équipe.
Bienvenue Eric. Tu fais quoi dans la vie, Eric?
Je suis photographe.
Ah, voilà. Photographe dans quoi?
Dans le spectacle.
D'accord. Ah, intéressant. Ah. Intéressant. Bon, Pascal Olmeta au théâtre, tu l'as croisé déjà ou pas?
Non, jamais.
Non, bon. Bon,
tu es trop laid.
Qu'est-ce que tu as dit? Tu me connais, toi?
Bon, écoute.
Peut-être qu'il t'a déjà vu, oui, on ne sait pas, Eric.
Pardon?
Eric, tu as déjà croisé Pascal?
Non, je n'ai jamais croisé Pascal.
T'as vu la femme de célébrité, quoi.
Bon, Eric.
Tu me prends photo à poil, tu vas.
Bon, Eric, est-ce qu'Aubameyang peut qualifier l'OM à lui tout seul?
T'y crois, Aubameyang? Est-ce que Aubameyang peut qualifier l'OM ce soir lui tout seul?
C'est une question super piège. Hein. Alors Aubameyang, oui, parce que alors sauver Marseille lui tout seul, ça me paraît déjà compliqué.
Bah, il l'a déjà fait. Hein.
Oui, il l'a déjà fait, mais
plusieurs fois.
C'est quand même relativement dangereux de compter uniquement sur un joueur. Quoi. Et puis le club de l'OM ne se limite pas, heureusement d'ailleurs, qu'à Aubameyang. Après, s'il est en forme et réaliste, oui, c'est vrai qu'il peut claquer, facilement deux buts. Après, s'il nous fait la même cacahuète qu'il nous a fait quand il était, face au gardien de Villarreal, où il a raté l'immanquable, ben voilà, c'est mort, quoi. C'est grillé.
Ah ben donc tu es d'accord avec le débat, puisque tu dis si lui il aimait pas, c'est mort, ça veut dire qu'il n'y a que lui qui peut te qualifier.
Non, il n'y a pas que lui, mais de toute façon, Eric, je vais peut-être pas te paraître sympathique, pourtant j'adore Marseille, je suis un supporter de Marseille. Mais pour moi, Marseille va se prendre une bonne fessée ce soir.
Ouais, t'as pas l'air très sympathique, mon ami Eric. Bon, reste à la photo. Bah,
non,
reste à la photo.
Mais non, Pascal, tu peux pas dire ça, il a son avis.
Mais décolle pas,
Marseille, bon, se manger 3-0.
Et en plus, il dit que je suis l'air. Qu'est-ce qu'il raconte?
Bah, là, c'est lucide peut-être.
Oui, enfin, c'est peut-être la lucidité. Et après,
tu rigoles. C'est pas la lucidité, les gars, mais quand même, il faut se rendre à l'évidence. C'est-à-dire que cette équipe de Marseille n'a absolument pas le niveau. De toute façon, elle n'a pas le niveau au championnat et ça, ça se voit. Elle n'a pas le niveau, comment dire, pour des matchs européens. Et en plus de ça, les joueurs, comment dire, de Marseille vont être un très, très gros problème. C'est-à-dire, peur de ne pas avoir le niveau, ils n'ont pas le mental. Donc voilà, pour moi, ça va être plié, rapide.
Okay. Mais dis-moi, Eric, t'es vraiment avec, supporter de l'OM ?
Avec des non, amis là, comme toi, on n'a pas besoin d'ennemis. Hein.
À mon avis, Eric, t'es pas supporter de l'OM.
Mais oui, tu parles, c'est fake.
Ah bon, fake.
Non, mais tu nous fais un canular, là, non ?
Ouais, c'est Camoulox.
Non, pas du tout. J'adore l'OM, je suis l'OM depuis des années. Ouais. Et je peux vous dire que je suis hyper triste. En vous disant ce que je viens de dire.
Ouais. Ah oui, tu n'étais pas à Barcelone mardi soir, Eric?
Non, c'était Vincent Labrune qui était.
Bon, bah Eric, bon match soir.
C'est peut-être Vincent Labrune qui appelle.
T'as encore un petit mot sympa pour Pascal? Bon,
ouais,
non, mais je suis désolé, Pascal, c'est pas vrai, c'était une boutade tout à l'heure.
D'accord, bien sûr.
Merci. Vaut mieux que tu le précises, mon ami. Hein. Tu veux que je t'envoie une belle photo de moi, Eric?
Merci, Eric.
Merci, Eric.
Bravo, je te donne les droits.
Bravo, Eric.
T'as vu sur
RMC. Et t'as vu comment il t'a bougé, Pascal?
Quelle belle intervention d'Eric.
Une belle photo de moi à cheval, les gars.
Comment tu t'es fait bouger, Pascal?
Ouais,
c'est fou.
Arrête, oh, Jérôme, oh, Roten.
Oh, mais c'est vrai, bah, écoute, il faut le dire.
Écoute-moi.
Tu te fais bouger.
Écoute-moi, je reçois des millions de messages.
Oui. Qui disent quoi?
Oh, écoute-moi, je vais même pas dire.
Dis-en un.
Ah non. Ah non, ils t'adorent tous, Jérôme, ils t'adorent.
Tu balances pas, Pascal?
Écoute, moi aussi, je vous adore tous.
Pas. C'est des gens avec qui t'as fait des braquages, visiblement. Alors, Lille, Aston Villa, on y retourne. Quart de finale de Conférence League, Jean-Romain.
Toujours 1-0 et 36 minutes de jeu, but de Yazidche. À la 15e, vous entendez siffler, c'est parce que Emiliano Martinez a ballon dans les pieds. Long ballon derrière en profondeur, mais franchement, la première mi-temps de Lille, pour l'instant, est parfaite. Attention quand même avec un ballon de McGinn, là, qui voulait trouver Watkins, mais bonne intervention de la défense lilloise et Yazidche qui fait aussi. Les meilleurs Lillois pour moi dans cette rencontre. Franchement, les Lillois sont au niveau et montrent vraiment que c'est une équipe qui va peut-être chercher la Ligue des Champions en championnat en Ligue 1. Ah bah là, un peu trop profond là pour Jonathan David, et c'est dégagé par Emilio Martinez. Pas une occasion pour le 4e du championnat anglais. Et Lille, bah pour l'instant qui fait égalité, ça mériterait même un petit peu mieux, mais franchement, on va pas être trop gourmand. Lille, franchement, fait un super match. Il faut que ça continue comme ça. Ça va finir par payer et la qualification pour les demi-finales serait pas loin.
Tu sais, Djibo, sur la première demi-heure, là, un peu plus, là, on voit la sérénité de Diouro derrière, c'est incroyable.
Ouais, il était un petit peu moins bien ces dernières semaines.
Mais là, la première demi-heure, c'est un modèle.
Moi, je suis impressionné par le collectif. Bah, le boulot de Fonseca,
passe, comme disait Eric, hein, qui est la passe qui fait vers Goodmanson.
Ah ouais, la transversale est magnifique.
À l'instant, il lit le jeu là, sur le
milieu de terrain. Collectivement, c'est impressionnant ce qu'ils font, les Lillois. C'est le boulot de Fonseca, tout ça. C'est quand même.
Zegrova et Angel Gomez qui est pas encore en forme.
C'est beau.
On a Fonseca,
le futur entraîneur de l'OM, il est pas mal.
De l'OM?
Je crois que c'était Eric Croix.
Eric voulait Eric Croix.
Oui, Eric Croix.
Et l'Angleterre qui l'aime beaucoup, Fonseca. Mais s'il va en Ligue des Champions avec le LOSC, il a dit, hein, la fin de saison pourrait être déterminante dans son choix à venir. Parce qu'on rappelle, il est en fin de contrat en juin.
Jibo, le président l'étant, c'est ce qu'il nous a dit aussi.
Oui, je pense qu'il y a du lourd qui va venir le chercher.
Ils auraient pas menti, quand même.
Ouais, mais bon.
Après... Et ils vont passer favoris s'ils sortent Aston Villa, là.
Non, mais demi-finale, c'est soit Fenerbahçe ou Olympiakos.
Et après, il y a Fiorentina.
Ouais.
De l'autre côté.
Ouais, il reste plus que ça, ouais.
Ouais, il y a aussi.
Bon, on n'y est pas encore. Ils ne sont pas qualifiés. Ils sont en prolongation, là, pour l'instant, si ça en reste là. Mais il reste encore beaucoup de temps. 1-0 pour Lille, donc, face à Aston Villa. La suite de ce match dans une seconde. Et notre débat autour du Real. Enfin, et de City, surtout. Guardiola est-il retombé dans ses travers après l'élimination hier? À tout de suite.
RMC, 18h-20h. Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
19h28 sur RMC. On est là, on est bien. Dernière demi-heure de Roten sans flamme. Un Roten sans flamme encore une fois exceptionnel. Oui, il y a les matchs de Conference League. Lille joue et mène 1-0. Pour l'instant, c'est presque la mi-temps. On va y aller. Retrouver Djibo dans un instant. On est avec Pascal Olmeta, avec Eric Dimeco, avec Jean-Louis Tour. Dans 15 minutes, le quiz de Julien Cazard. Et puis surtout, on vous lance l'avant-match de Marseille-Benfica ce soir.
C'est ce soir, 21h, cette rencontre. Et le quiz sera là, avec une semaine dans une résidence Lagrange à gagner. Vous envoyez top au 7-32-16 pour vous inscrire. Avant de débattre autour de City, éliminé hier par le Real. La fin de la première période entre Lille et Aston Villa, ça a été chaud sur le but lillois, Jean Baumel.
Il y a eu un arrêt, surtout de Lucas Chevalier, il y a quelques instants, avec une intervention vraiment incroyable. Il n'a rien fait. Mati Cash qui se présente seul devant lui sur le côté droit. Alors l'angle est un peu fermé, mais il fait encore une belle parade. Alors que là, à l'instant, Unai Emery et Paulo Fonseca ont pris un carton jaune. Ça devait chauffer un peu. Ah, il y a Benjamin André aussi qui en a pris un. Et il y a un coup franc pour les Anglais. Attention, ça fait deux cartons jaunes coup sur coup pour Lille. Hein. Donc Benjamin André et une minute avant, Nabil Bentaleb. Attention de ne pas laisser les concentrer parce qu'ils sont en train de casser le rythme. Franchement, ils font une très bonne mi-temps, les joueurs lillois, mais Aston Villa ne montre rien, et casse le rythme et ils arrivent à obtenir des cartons jaunes pour l'adversaire. Attention à ce coup franc qui est bien, c'est mal donné, et tant mieux pour les Lillois. Bonne récupération de Lucas Chevalier avec cette tentative de Douglas Luiz qui vraiment... Aston Villa hyper décevant alors qu'ils ont gagné, on va le rappeler quand même, ce week-end à Arsenal 2-0, alors que Lille a pu se reposer. Je peux vous dire que si ça se qualifie pour Lille et pour Marseille ce soir avec le Paris Saint-Germain, je pense que la journée qui va précéder les deux tours des demi-finales.
Ah ouais, ça on verra. Djibo, toujours à demain,
il y a une fraîcheur, ça se voit en tout cas.
Il y a un CA de la Ligue, à voir si les matchs seront encore reportés entre les deux demi-finales, hein, on n'y est pas encore. Vous pensez que ça a joué la fraîcheur de pas jouer ce week-end là, non, pour tous les clubs français?
Moi je pense pas, mais bon. Ah bon, après peut-être que je me trompe, hein. C'est possible, mais quand tu vois les effectifs et le fait que certains peuvent faire souffler
disons que le Barça, ils avaient fait tourner, là Aston Villa ils ont joué au taquet.
Écoute,
ce week-end,
moi Jean-Louis, je vais te dire, par expérience, et on a la chance d'avoir Eric et Pascal aussi avec moi, on les a joués ces matchs-là et ces périodes-là, on est début avril. Alors moi, je veux bien qu'on me dise il y a plus de matchs aujourd'hui, ce qui est faux. Les matchs internationaux, peut-être, mais ça concerne pas tous les joueurs. À l'arrivée, il y a de la fatigue, ça c'est sûr. La fatigue psychologique, la fatigue physique, pour l'instant, tu la ressens pas. La fatigue physique, tu commences à la ressentir au mois de mai. Tu vois, au mois de mai, t'es dans la dernière ligne droite. Il y a l'impact psychologique aussi qui rentre en jeu. C'est là que ça se gagne, les compétitions. Et là, en effet, t'as besoin peut-être de souffler par moment un peu plus qu'à l'accoutumée. Mais aujourd'hui, on est début avril, franchement, on voit mi-avril, on voit pas un enchaînement terrible de matchs, quoi, tu vois. Donc moi, je suis pas sûr que ça ait beaucoup joué sur la performance du PSG.
Eric, t'es d'accord?
Ouais, moi je préférais jouer tous les trois jours que m'entraîner. Donc et alors après, tu as toujours un peu en toute fin de saison. En effet, quand tu as fait une cinquantaine de matchs et des poussières, ça pique un peu. Mais là, ce moment-là de l'année, non, franchement, moi je suis plutôt d'accord avec Jérôme.
Ils ont du mal à finir à la mi-temps, les Lillois, Djibo.
Ouais, carrément. À un moment, il fallait bien que les Anglais se réveillent parce qu'ils ont été tellement décevants. Ils ont tellement été mangés dans le jeu par Lillois dans les 40 minutes de cette première mi-temps. Lille a fait le plus dur en ouvrant le score grâce à Yazice. Mais attention au carton et voilà, on sent un peu de roublardise. Hein. Emiliano d'ailleurs, Martinez qui a pris un carton jaune parce qu'il tardait tellement à dégager son ballon que l'arbitre a dit à un moment ça suffit. Il en a mis un jaune. Et il y a eu un changement d'ailleurs, hein, du côté, puisque Zaniolo était blessé. C'est Morgan Rogers, hein, qui était titulaire la semaine dernière, qui est revenu. Mais pour l'instant, la fin de mi-temps, là, avec le temps additionnel, il reste encore 2 minutes sur les 4. Le ballon qui va sortir et qui va bénéficier aux Lillois, ça va mieux. Voilà, ils ont eu un peu de flottement pendant 3-4 minutes. Et le ballon qui va revenir tranquillement dans les bras d'Ismaili, qui va prendre son temps. Il faut surtout revenir au vestiaire avec cet avantage de 1-0 au minimum. Hein. S'ils arrivent à en mettre un deuxième juste avant les Lillois, ça serait parfait. Mais pour l'instant, le plan est bien. Lille et Aston Villa sont à égalité. Deux buts partout. Encore 2 minutes à jouer dans le temps additionnel.
J'ai l'impression, Pascal, que t'es fan de Chevalier dans les buts lillois.
Ah non, mais c'est... C'est
il est étonnant, hein, mais il est étonnant ce gamin sur la sortie qu'il fait tout à l'heure là.
Parce qu'il
il fait une saison extraordinaire.
Ce qui est étonnant, c'est qu'il est il franchit des paliers de match en match. Il est aujourd'hui.
Quel âge il a?
Il a 23.
Ouais, 23.
Il, a, il a même des positionnements où c'est plus la peine de plonger tellement qu'il est bien.
Tu penses qu'il est, il lit bien les trajectoires, Chevalier, Pascal?
Ah oui. Regarde son positionnement.
Non, il est jamais... c'est une question. En comparaison, tu vois, vu qu'on a un grand gardien au PSG aussi, Donnarumma lit bien les trajectoires par rapport à Chevalier.
Donnarumma, écoute, plus fort que lui sur sa ligne, il n'y en a pas beaucoup.
Ah, hein. Sa ligne, oui. Non, mais je parlais de trajectoire.
Non, mais après, tu sais très bien, Jérôme, que si il est très bien sur sa ligne et il n'est pas à l'aise sur ses sorties aériennes, autant rester sur la ligne.
Ça sera gardien JO aussi. Hein.
Chevalier, oui. Attention, les joueurs d'Aston Villa à l'attaque. Hein.
Ouais, avec une longue touche à venir. Il reste 30 secondes. C'est parti, c'est dans la surface de réparation lilloise. Avec attention à la frappe. Ouais, c'est détourné. Frappe, c'est au-dessus. Je pensais qu'elle a été déviée, cette tentative d'Aston Villa. Mais Sunderland, Douglas Lewis, qui a tenté sa chance. Ah, c'était chaud. Hein. Je pensais qu'Ismaël avait touché.
Il y avait faute, de toute façon. Je crois qu'il y avait faute.
Il y a faute sur Diakité juste avant, a priori. Bon, en tout cas, l'arbitre va certainement siffler la fin de cette première mi-temps sur le dégagement de Lucas Chevalier, qui fait une grosse saison avec le LOSC.
Okay,
le temps additionnel est terminé.
1-0 donc pour Lille, à tout à l'heure après la mi-temps. Donc les Lillois, pour l'instant, sont revenus à hauteur d'Aston Villa. On revient tout de suite sur hier soir.
RMC, Rotten sans flamme.
Le ring des supporters.
Et oui, parce qu'à l'issue de la séance de tir au but, le Real a donc éliminé Manchester City. Real Bayern sera l'affiche de la demi-finale, à côté donc de PSG Dortmund. D'ailleurs, on a les dates. Hein. L'aller, ce sera le 1er mai, le retour le 8. Le 7 pardon pour le PSG Dortmund. Donc voilà, ces matchs seront bien sûr sur RMC. Et hier, pendant une bonne partie du match, la passe à 10 de City n'a pas trouvé la faille. Guardiola est-il donc retombé dans ses travers? On a Karim qui monte sur le ring des supporters, Jérôme, au 32-16.
Salut Karim.
Salut tout le monde.
Bienvenue Karim.
Salut. Merci.
Bon Karim, qu'est-ce que tu penses du match de City et de la performance, plus globalement du
coach? Guardiola retombe dans ses travers.
En fait, moi je trouve que le jeu de Guardiola, il a ses limites. Et en fait, cette limite, c'est le top niveau européen. Dès qu'il affronte, que ce soit là le Real Madrid ou souvent le Real Madrid d'ailleurs. Mais on voit que ce jeu de passe à 10, cette possession stérile, elle aboutit à rien en fait. Et c'est un très gros problème, je trouve, parce qu'en fait ça rend inutilisable déjà le poste de numéro 9. Et en fait quand tu joues par exemple face au Real Madrid, tu vas récupérer le ballon, si tu peux les avoir, ce qu'il faut rechercher, c'est le déséquilibre. Ça veut dire que quand tu récupères un ballon face au Real Madrid, il faut très rapidement aller chercher l'espace pour aller marquer un but. Et le problème de City, c'est dès qu'ils prennent la balle, c'est un peu une arrogance, je trouve. C'est, ils prennent la balle, ils reviennent en arrière. Et limite, ils laissent l'équipe adverse se replacer et pouvoir. Mais face au Real Madrid, c'est compliqué d'aller marquer un but si tu laisses tout le monde se replacer.
Ouais,
en fait, c'est ça le jeu de City, de Guardiola surtout.
Ouais, mais la limite de ton raisonnement, c'est que sur les deux dernières saisons, il y a eu ce même match-là, et puis il y a eu un paquet de buts. Quoi.
Mais l'année dernière, il a renié ses principes. Vous regardez les stats en termes de possession de passe contre le Bayern Munich, par exemple, c'est du 50-50. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que Haaland, par exemple, contre le Bayern Munich, c'est un but en contre-attaque. Et au match aller, pareil, c'est des récupérations de balles où Manchester City, ils vont vite attaquer la profondeur. Il avait renié un peu ses principes l'année dernière et bizarrement, il gagne la Ligue des Champions.
Je suis pas sûr qu'il ait renié ses principes comme faisait remarquer Eric, parce que quand tu regardes l'équipe qui a gagné 4-0 l'année dernière en demi-finale de la Ligue des Champions, donc contre le Real Madrid, à part Gundogan qui est parti bien sûr et qui est à Barcelone maintenant, c'est quasiment la même équipe. Et la même chose qu'il demande aux joueurs. Et pour aller dans ce que disait Eric, c'est que moi je veux bien qu'on ait envie de voir des attaques rapides et tout ça, mais quand t'as un bloc qui te propose en face, qu'a proposé le Real Madrid, en plus en l'occurrence avec beaucoup de réussite, parce qu'ils ont marqué dès leur première occasion, et derrière ils ont quasiment fermé tout le match. Hier quand même, alors je veux bien qu'il n'y ait pas de grosses situations, mis à part l'occasion de De Bruyne à 5 minutes de la fin, quand il met plat du pied à 1-0, là, à un partout au-dessus, à 6 mètres du but, mais
il y a quand même, ils ont tenté hier. Ouais, alors, ils ont été maladroits. Mais bien sûr, Eric, il y a 34 frappes hier. 34 frappes à deux.
C'est toujours pareil avec eux.
C'est toujours pareil, et je vais te dire la vérité. Moi, souvent, quand je les commente, ça peut être ennuyeux de les commenter. Sauf que c'est comme ça qu'ils ont gagné l'an dernier. Tu tournes comme tu veux. Alors après, c'est sûr que quand tu rencontres des équipes un peu plus fortes qui, du coup, ont le ballon et viennent t'embêter, ben, du coup, il y a des transitions un peu plus rapides avec Haaland, avec c'est le scénario du match ou l'adversité. Mais le problème du match hier soir, c'est que quand le Real marque d'entrée, tu es mort derrière. Tu sais qu'ils vont t'attendre devant les 18 mètres. Et surtout, tu ne vas pas les aspirer. Ils ne vont pas être cons à venir te chercher. Parce que leur point fort, c'est justement de ne pas te laisser. Ils ne vont pas. Moi, le seul truc qui me dérange dans le match hier soir, c'est qu'à un moment donné, je commente le match et je pose la question à un moment donné à Stéphane Guy, avec qui je commente. Je dis, mais combien Akanji a touché de ballon dans surface sur des longs moments de possession, et ces fameuses passes dans la surface qui déclenchent tout finalement. Si tu l'as fait sur Foden, sur Bernardo Silva, sur Grealish, sur De Bruyne, ça amène une occasion de but. Et je crois qu'il y en a eu 8 ou 9. C'est-à-dire que le joueur qui a touché le plus de ballons dans la surface adverse, c'est Akanji. Donc à un moment donné, je me dis, il va en mettre un autre. Ou alors il va demander à Akanji de rester derrière, il va mettre un autre joueur là-haut. C'est ça qui est gênant. Je me suis dit, bon, Kovacic, à ce moment, je trouve pas qu'il fasse des merveilles, mais au pire, mais lui, de voir Akanji toucher des ballons d'eau au but dans la surface, où il faut faire des remises, où il faut faire des prises de balles pour se retourner vite. Doku, je le réfère entrer avant, parce que ce soit Grealish ou Bernardo Silva, alors c'est vrai qu'il n'y a pas de centre. Bon, ça m'énerve aussi. Tu as Haaland dans l'axe, il n'y a pas de centre. Bon, ça, c'est énervant. Toi, Jérôme, je pense que ça t'énerve aussi, parce que quand tu as été joueur de couloir, quand je vois des mecs venir et puis jamais faire le centre, ça me rend fou. Et quand je vois Bernardo Silva et Grealish aller fixer et jamais faire la provocation et toujours revenir, ça m'énerve. Et Doku, quand il rentre, c'est-à-dire
t'en as qu'un, Eric, qui prend des initiatives, et la preuve, c'est lui qui marque, c'est De Bruyne au milieu.
Ou Doku dans un couloir qui va provoquer, qui va faire soit crochet intérieur, soit crochet extérieur, et qui tente des trucs. Et puis sors-moi un Kanji avant. C'est le seul truc qu'on peut reprocher à Guardiola.
Après,
hier soir,
en commentant le match, moi j'ai eu cet avis là hier, c'est que ça soit sur le match retour, le match aller ou le match retour, autant au match aller Foden a assuré. Hier, Foden est très moyen, même dans ses choix c'était très compliqué. Mais la grosse déception, et on en avait fait un débat avant la rencontre sur Haaland, sur les gros matchs, je suis désolé. Alors bien sûr qu'il n'y a pas assez de centre, bien sûr, mais quand t'as des milieux de terrain comme De Bruyne, par exemple, je prends juste De Bruyne, qui a quand même quelque chose dans le pied qui est différent de tous les autres joueurs, Haaland, il doit être plus actif, quoi. Sur le match d'hier,
qu'est-ce qu'il peut faire en fait, Haaland? Parce que moi, j'aime beaucoup aussi Julian Alvarez. Je trouve que c'est un neuf qui va.
Mais il bouge plus, il est plus mobile.
Il bouge plus, il est dans les combinaisons, il convient mieux.
Il est mal utilisé, on le voit pendant 30 minutes, il joue en prolongation, et c'est pareil. Ça veut dire, moi, je trouve qu'il utilise mal les neufs.
Ce que j'ai vu hier, quand il fait le remplacement, en effet, Alvarez, alors il a eu du mal à se créer des occasions, mais il est beaucoup plus utile à l'équipe que Haaland pendant plus d'une heure et demie, quoi. Haaland hier, Jérôme, c'est fantomatique.
Jérôme, quand tu regardes Haaland, le peu de ballon qu'il a eu et qu'il a été chercher à la tête, il n'y a que lui qui monte si haut pour remiser ou frapper directement.
Mais sauf que Pascal,
et tu ne te sers pas de ça. Non, mais est-ce que tu penses que c'est le coach qui a dit, les gars, parce qu'à un moment donné, moi, ça m'a gonflé ces petites passes. Allez,
mais il faut toujours ça en réalité.
Mais ils font ça, et puis ça l'a pas empêché d'exploser le record de nombre de buts.
Rappelez-vous l'an dernier comment le match se débride. Alors très rapidement, mais le scénario fait le résultat l'année dernière. C'est une passe de De Bruyne qui a été faite à Akanji pendant un moment là, dans la surface comme ça, Bernardo Silva qui vient crucifier le gardien adverse. Et puis là, d'un coup, tu as l'équipe qui est obligée de sortir en face. Et là, le match simplifie pour eux. Là, le scénario, hier soir, il est terrible pour eux. Et à la limite, en plus il est rentré, donc je pense qu'il... Mais Walker sur le but du Real, oui. Comment il fait pour couvrir alors que l'action se passe de l'autre côté quand il y a un joueur de ce niveau-là,
surtout qu'il lève le bras en plus pour...
Mais oui, en plus, parce que s'il ne marque pas les autres, c'est fini.
Merci
jamais
Karim.
Il marque.
Merci Karim, en tout cas. 16. On revient dans une seconde pour le quiz et la deuxième période de Lille-Aston Villa. Lille mène 1-0 et se dirigerait vers la prolongation si le score en restait là. Lille a refait son retard, à tout de suite.
RMC jusqu'à 20h.
Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
19h45 sur RMC. On est là, on est bien. On finit là les deux heures de Roten sans flamme. Et qui dit les 10 dernières minutes de Roten sans flamme, c'est le quiz de Julien Cazard avec une équipe de Marseillais. Eric Dimeco, Pascal Olmeta contre
Si on gagne, l'OM gagne.
Ah,
on va voir ça. Oh là là, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait dans le Kikali, ça n'a pas marché.
Tu viens de motiver Jérôme là. Allez, on y va.
Voilà. Ah bah non, s'il est pour le foot français.
Contre le reste du monde, saison 3.
Je rappelle que la semaine où Jérôme a gagné tous ses quiz, tous les clubs français ont perdu. Et depuis qu'il a perdu contre le PSG a gagné. Donc là, je le dis. Ouais. Jérôme, tu dois perdre si tu veux faire gagner Marseille.
Eric,
je vais te dire, ce serait l'inverse. Je te jure que je te laisserai gagner.
Hein. Ouais. Il y a une semaine dans une résidence Lagrange à gagner. Je vous rappelle que Lille mène 1-0 face à Aston Villa la deuxième période dans une seconde.
C'est le feu.
Pour jouer avec nous, Sandrine et Cédric sont là. Bonsoir à tous les deux.
Salut à vous deux.
Sandrine.
Ça va trop.
Salut Sandrine.
Salut.
Équipe Roten, Sandrine, ou reste du monde?
Équipe
Roten.
Allez,
Sandrine.
Et on s'arrête, tu es pas avec Marseille. Bon, allez, on y va.
Non, c'est Cédric qui est supporter de l'OM.
Ah,
qui est
avec l'OM.
Bon
courage, Cédric.
On s'enflamme encore quelques heures.
Question flash. Ce soir.
Allez,
on vous met le feu.
Allez,
on vous met le feu. Mais qui joue contre la Fiorentina là? Le vrai nom. Contre la Fiorentina, Victoria Pilsen, il a dit ça se trompait, c'est fou. Bravo. Ça va, c'est pas compliqué non plus quand même. Je suis pas dyslexique.
C'était une question
Déjà, t'as dit dyslexique sans te tromper, c'est déjà fou. Déjà.
Comment j'ai pu tricher là en allant si vite? Il est fou, lui.
Allez, 1-0.
Non, je me rappelle que quand il a le droit de tricher, il n'y arrive pas.
Ouais, mais non, mais je sais pas tricher, moi, en réalité. Tout le monde le sait maintenant.
Mais bien sûr. Qui que c'est-y? Dans l'équipe de Dibu Martinez, quel joueur est dans son attitude tout le contraire du gardien d'Aston Villa?
Qui est alors dans l'équipe de Dibou?
Digne. Bonne réponse de Jérôme. Et oui, Digne. Digne est vraiment l'inverse de son gardien.
Bravo.
Il est Digne.
T'as compris.
C'est nul, mais gros. Mais fais les questions. Mais déjà, il est gros. C'est nul, l'autre. Question, c'est abusé. Mais demande à Aubameyang de le faire, puisqu'il sait tout faire, Aubameyang.
Oh, mais mon vieux, c'est abusé, gros.
Quoi, une question, c'est abusé? Tiens, on va la faire. Elle est lancée. On va la faire, une question, c'est abusé. Lors du fameux PSG Benfica de 2007. Tu t'en souviens, Jérôme? Tu l'as joué, ce quel rêve.
J'avais été très bon.
Bah oui, on avait perdu 3-1.
J'avais été très bon.
Benfica PSG.
Bah, écoute, c'est pas de ma faute si on a perdu.
Un joueur portugais approuvait le grand timonier de Chine, chef de la Grande Marche. Qui est-il?
Simão.
Simão, bonne réponse.
C'est moi qui le mets sur le truc.
Tu as donné la passe parce qu'il sait pas qui c'est lui. Plus que Mao, c'est un col. Allez, on enchaîne.
C'est un peu les deux.
Kikseti. Quel ancien du Benfica?
Benfica
était un joueur chaud lapin dès l'aurore.
Chaud lapin, chaud lapin.
Il était chaud lapin dès l'aurore.
Chaud.
Pascal n'est plus là.
Choto.
Au matin,
je suis là, mais bon.
De quelle époque?
Eh bien, c'était les années 2000, début des années 2000, fin 90. Fin 90, début 2000. Milieu 90, fin 90.
Rui Costa.
Milieu 90, fait
le mec, il est chaud dès le matin.
Il est chaud dès le matin. Qui ça peut être ça?
Ah, c'est un nom, franchement, en portugais, très classique.
Très classique, donc c'est-à-dire. C'est-à-dire
Souza. Tony.
Ferreira, Souza.
Son prénom, c'est João.
João Pinto.
C'est moi.
C'est nul.
Question.
C'est affreusement mauvais.
Allez, on va faire question bonne mère parce que c'est gênant là. Question bonne mère.
C'est la question Mathieu Bodmer.
Je prends un joker.
Ah non, je l'ai celle-là.
Le joker, c'est Matteo Guendouzi.
Voilà.
Je peux pas parce que voilà, je comprends pas les questions. Alors voilà, je veux pas faire la.
Celle-là, elle est pour moi.
Non. Voilà quoi. Bon, c'est Jean-Louis qui va faire. Voilà.
Celle-là, elle est pour moi.
Eric, celle-là.
Voilà.
Quelle spécialité portugaise.
Bacalao.
Et presque une boisson marseillaise.
Ah, c'est l'ouzo. Non, pas l'ouzo, c'est le. Ah merde.
Le Porto.
Non, c'est. Comment non. Il s'appelle le
pastéis.
Le pastéis. Bonne réponse de Jean-Louis. Le pastéis.
4-1.
C'est quoi cette blague? C'est quoi le pastéis?
Le pastéis de nata, c'est une tartelette. Question à 3 points.
Mais je sais ce que c'est le pastéis de nata, mais quel rapport avec le pastéis?
T'as pas compris sa question. Parce que pastéis, pastéis, c'est pas loin.
Non mais arrêtez-vous.
Attention, et là c'est une question à 3 points parce que le jeu de mots il est tout pourri, dégueulasse. Quel ancien du Barça imitait très bien ses coéquipiers, surtout ceux qui venaient d'Afrique ou de Chine?
Leb.
Bonne réponse, Leb.
Là, c'est 3 points.
Alexandre Leb.
Bravo, 3 points, Pascal.
Et ben, c'est quoi ces balles de match?
Non, on a le temps. On est devant.
Tes questions à 3 points.
Et que qui écoute?
Là, dans le classement des stats perso, Pascal, il a monté d'un coup.
Allez.
Est-ce qu'on peut. Les auditeurs sont là, Cédric et Sandrine.
Allez, Cédric, mon petit tour.
Sandrine, allez.
C'est reparti à Lille. 0-0 toujours.
C'est grâce à toi que l'on me gagne.
C'est une question larquée. Voilà.
Juste pour Sandrine et Cédric.
Salut, c'est Jean-Michel Larquet sur RMC.
Oh, c'est moi le dinosaure.
Il y a eu à Marseille, au Vélodrome, il y a eu un France-Portugal célèbre en 84. On a gagné 3-2. C'est Platini qui met le dernier but, mais qui lui fait la passe?
Ah oui.
C'est un milieu de terrain magnifique.
Ah, c'est Nico.
Qui? Allez, Cédric, joueur de l'OM. Et à Bordeaux, un grand joueur de Bordeaux.
Il a été coach.
Jeannot.
Blanc.
Non, le
allez,
contraire.
Sandrine.
Il est un peu moins blanc que blanc, d'ailleurs.
Le facteur.
Jean.
Oh, les gars, oh.
Jean.
Cédric.
Jeannot.
Vous l'avez pas?
Non, ils l'ont pas.
Jean Tigana.
Ah, Tigana. Il l'a dit.
Ah, bah oui.
C'est Cédric qui l'a dit.
Cédric qui l'a dit.
Cédric, on ne connaît pas, oh.
À mon travail avec
nous. Mais nous on s'en fout, vous voulez que tu donnes la réponse?
Ouais, je crois qu'on s'en fout, c'est officiel, on s'en fout complètement.
5-4.
On est devant, attention. Mais on est devant.
Quel joueur formé au Benfica jouait pour le Barça avant-hier?
Hein?
João Félix.
Non.
Oui, João Félix,
c'est quand même
João Félix.
C'est
pas sûr. Absolument.
Bravo, Meco.
Et maintenant, qui est l'intrus?
Pascal Olmeta.
Question à 2 points.
Oui.
Agüero, Messi, Maradona, Suarez.
Agüero, pas champion du monde. Messi, Maradona, Suarez.
Je vais vous donner un indice. C'est un lien avec le match de ce soir. Agüero, Messi, Maradona, Suarez. Il y a un intrus.
Ils ont tous gagné. Alors non, c'est qui a pas gagné contre Benfica en finale de Coupe d'Europe?
Ah, ça n'a rien à voir. Le club de Benfica, ça a un rapport avec OM Benfica.
Agüero.
Avec Benfica OM.
Agüero.
Avec Benfica OM.
Agüero.
Avec Benfica.
Avec ton Benfica OM.
C'est avec ça le monde Benfica OM.
C'est quoi? C'est Messi.
Pourquoi avec Messi? C'est avec un fait de jeu.
Mais Messi, non?
Non, c'est alors Maradona, Suarez. Agüero n'a jamais marqué de la main.
Jérôme l'a dit ça. Si c'est ça,
c'est pas ça.
C'est pas ça. Déjà Louis Tour.
Vous êtes pas loin.
Alors c'est Messi a jamais marqué de la main dans un match de Coupe d'Europe.
Non, c'est Suarez.
Suarez. Suarez a sauvé un but de la main, mais n'a pas marqué de la main.
Alors attendez, la balle de match arrive. Il y a 6 partout.
La balle de match, il n'y a pas 6 partout.
Il a dit 2 points.
Il a rien dit.
Attendez, juste avant la balle de match,
il n'a pas dit 2 points.
Lille, Aston Villa, comme ça tout le monde va se concentrer. Jean Baumel, le match, la deuxième période.
Reparti depuis 4 minutes, il y a une belle occasion pour Haraldsson qui récupère un ballon à l'entrée de la surface de réparation. Il enchaîne la frappe, c'est passé juste à côté du poteau droit de Martinez en termes de deuxième mi-temps. Okay. À peu près identique en première pour Lillois, c'est plutôt bien. Donc bientôt la 50e, 1-0 pour le LOSC.
C'est intéressant, Djibo, mais on a une balle de match dans le quiz.
C'est parti.
Oui, Djibo. Match en bois lui-même. Djibo, quand même, il y a des priorités dans la vie.
C'est sympa. Ouais,
mais quand même, Djibo.
On joue pas la conférence quiz, nous.
C'est fou.
Allez, la balle de match.
Attention, c'est chaud. La victoire de l'OM est à jeu. Qui Kawej ici? Allez. C'est maintenant.
Espagnol-Barcelone, Panathinaikos, Juventus, Inter, Sporting, Benfica,
ah, Rui Barros.
Dortmund.
Non, pas Rui Barros. Pas Rui Barros. Rui Costa.
C'est un portugais.
Ouais, Rui Costa. Non, Foutre, Paolo Foutre. Non, rien à voir.
Simao, Simao.
Paolo, Pinto. Paolo, Paolo Souza. Paolo.
Paolo Souza.
Ah, j'ai dit au hasard.
Victoire donc de Cédric et du reste du monde.
Tant mieux, l'OM va gagner.
J'ai laissé. Roten contre le reste du monde sur RMC avec Lagrange Vacances. Mer, montagne, campagne. Trouvez votre résidence 3 ou 4 étoiles pour les vacances.
Retrouvez Roten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.